Bonjour à tous et bienvenue dans Eurecast. Je m'appelle Johan et j'ai mon chapeau d'Indiana Jones, hein, d'où mon pseudo Indiana Johan, et je suis à Paris en duplex avec Lyon, où se trouve Thomas de Zeupel. Est-ce que tu me reçois, Thomas?
Oui, ici Thomas en direct de Lyon. Ici l'ambiance, c'est la folie.
Ok, bah ouais, nous c'est à Paris, c'est la folie aussi, bien sûr. On n'est pas dans un stade de foot, hein, mais on est en plein enregistrement et c'est un moment qu'on aime beaucoup. Donc du coup, on est content. Voilà. Le programme d'aujourd'hui, c'est le programme un peu de tous les jours, hein. On parlera d'abord des actualités dans le monde des énigmes. Ensuite, on a un sujet principal, hein, vous avez vu, hein, aujourd'hui, on va parler des escape games à Athènes. Et on finit avec des énigmes de fin. Ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'au bout. Voilà, s'il y a des parties qui vous semblent un peu trop longues, hein, dans cet épisode, eh bien, n'hésitez pas à les passer, hein, et pour ça, ça c'est une nouveauté qu'on a maintenant, ça va être intégré dans tous les épisodes, on a dans la description le sommaire avec les time codes pour aller aux différentes parties, ça vous permet de savoir où aller pour sauter des parties si besoin. Alors, est-ce qu'il y aura besoin de sauter des parties pour les auditeurs?
Sauter des parties, alors pas forcément, mais aussi pour revenir plus facilement là où on en était quand on l'écoute en plusieurs fois, par exemple.
Ça peut, c'est vrai. Alors normalement, sur certaines applis de podcast, enfin moi c'est le cas, ça sauvegarde, hein, l'emplacement là où on en est. C'est l'intérêt. Voilà. Après, si on veut réécouter plus tard une partie, on peut servir du sommaire. Le sommaire est ultra pratique en fait, hein. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. On peut passer des parties. Il y a une partie qu'il faut surtout pas passer quand même, c'est le générique. Hein,
ah bah
parce
non.
Que le générique, il est très sympa. Allez, c'est parti pour le générique.
Le podcast des énigmes, Thomas de Zeupel, Johan, d'un trésor à Paris. On prépare les puzzles et allez hop, c'est parti.
Podcast des énigmes.
Du coup, c'est parti pour l'épisode. Alors déjà, il y a une petite nouveauté pour cet épisode. Thomas, tu n'as sans doute pas vu, mais sur le site Un Trésor à Paris, maintenant, je parle du podcast sur la première page d'accueil.
Ah.
Et ouais, j'ai mis une petite description et je dis qu'on décrypte ensemble le monde fascinant des énigmes. Voilà,
c'est donc, beau que tu parles.
Ouais, c'est ça. Bah oui, et donc du coup maintenant que c'est écrit sur le site, il y a plus le choix. Hein, il faut vraiment qu'on le fasse. Après, c'est ce qu'on faisait déjà, non? Enfin, il y a pas de.
Je sais pas si je me sentais capable de décrypter, mais je vais faire de mon mieux.
Mais non, mais parce que oui, c'est par rapport à la référence, par rapport aux énigmes et tout, mais voilà, on essaye d'en parler en tout cas comme on peut. À côté un petit peu décryptage. Voilà. Alors pendant l'épisode, s'il y a des choses qui vous font réagir, hein, mettez-les en commentaire. Hein, alors les commentaires, c'est sur Instagram que ça se passe, ou sur Facebook aussi c'est possible. Là, il y a un post à chaque fois par épisode, et il vaut mieux que quand vous pensiez à un truc, vous le mettiez directement en commentaire. Il ne faut pas attendre la fin de l'épisode, hein, parce que vu que ça dure un petit peu longtemps, vous allez l'oublier. Donc n'hésitez pas à tout de suite mettre le commentaire si vous pensez à un truc d'intéressant. Ça sera intéressant pour nous déjà, on pourra peut-être vous répondre, mais aussi peut-être pour les autres éditeurs, les autres auditeurs, ça peut être intéressant. D'avoir vos avis, voilà. Donc faut pas hésiter. T'es d'accord, Thomas?
Mais totalement.
Bon, bah écoute, c'est parfait. On peut parler vite fait de l'épisode précédent, hein, sur Leading Bat. Alors.
Peu de réactions, pour le coup, sur cet épisode.
Peu de réactions, tu veux qu'on dise pourquoi? Bah ouais, bah vas-y, bah explique,
oui,
hein, parce que...
Parce qu'en fait, c'est l'épisode de mars, hein, et là, bah, on enregistre l'épisode d'avril. Comme on prend quand même, on est organisé, donc on enregistre à l'avance. Là, on est le 31 mars pour l'épisode d'avril, c'est quand même pas mal.
Le
seul truc, c'est qu'on vient tout juste de diffuser l'épisode de mars, hein, le 31 mars aussi. Donc c'est-à-dire qu'on a 2 heures de recul, hein, sur la publication. Donc personne n'a commenté en 2 heures, puisque en fait, je pense que l'épisode prend 1h30 déjà. Donc voilà, peu de retours. Mais c'est compréhensible, je pense, pour cette fois-ci.
C'est ça. Hein. Bon, donc oui, on ne sait pas ce que vous avez trop pensé de cet épisode encore, mais moi, j'ai quand même un avis dessus, parce que en ayant fait le montage, j'ai remarqué, donc on parlait de Dingbat, tu m'as fait faire du vidéo de Dingbat, et j'ai eu une remarque là-dessus. Je me suis dit que les auditeurs, eh bien, je doutais qu'ils trouvent plus rapidement que moi. Les solutions.
Ouais.
Je sais pas si c'est ça.
Tu m'as dit ça.
C'est ça. Oui, j'ai dit, non, parce que c'est chaud et tout, à l'oral. Et franchement, en réécoutant, je me suis dit, ah ouais, non, si, en fait, j'espère qu'ils vont trouver plus vite que moi, parce que je me suis trouvé mais horriblement long à tilter sur les trucs.
Mais c'est bien, hein, ça, de quand tu connais les réponses, tout paraît toujours évident. Oui. C'est d'ailleurs un biais à lutter quotidiennement quand on crée des énigmes, hein, parce que ça nous paraît évident, parce qu'on a la réponse sous les yeux. Et du coup, toi, tu devais l'avoir encore plus, parce que tu avais réfléchi, tu avais les pistes en tête. Donc, non, ça allait. En plus, quand je l'ai écouté, c'était quand même assez rythmé, hein, donc il n'y avait pas trop de soucis. C'était un bel épisode, au point de vue.
Ouais, d'accord. Ouais, moi, ok. Moi, c'est par rapport à l'humilité que je me disais que c'était bien d'en avoir, en disant, c'est vrai qu'en fait, des fois, non, parce que c'est vrai que nous, en connaissant les réponses, on peut des fois se dire, les joueurs et tout, des fois, ils sont lents. Mais, non, en fait, quand tu connais pas, vraiment, c'est dur, quoi.
Ouais. Moi, ce que j'aimais bien dans cette phrase-là, du coup, on peut passer l'humilité, c'était le côté challenge. Tu vois, j'aime bien le « Ah, je vous mets au défi d'arriver à faire plus rapide que moi ». Ça, ça m'a fait plaisir. J'aime bien ce côté-là.
Oui, voilà, bien sûr, c'est dans ce sens-là, hein, que je le disais. C'était pas en mode « c'est impossible » et tout, parce que je suis trop fort. Non.
D'accord.
Alors... dans les actualités, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps et qui s'appelle Le Trésor de Khéops, que j'ai vu. Thomas, t'as suivi que c'est sorti ce film, hein?
Ça fait penser un peu à Indiana Jones, du coup.
Eh mais oui, voilà, c'était un peu le Indiana Jones à la française, et ça, il y en a pas souvent qui sortent, hein, parce qu'il y a des Benjamin Gates et autres. Bon, ça fait longtemps que c'est pas sorti, mais il y en a eu d'autres là récemment. Il y a eu quoi comme film qui est sorti là d'aventure? Il y a eu avec le jeu vidéo là, bah, il y avait Lara Croft et Uncharted. Voilà. Bon, mais c'est vrai que ce genre de film, c'est vraiment un genre, hein, le format film de chasse au trésor, que forcément moi j'aime beaucoup, hein, je regarde tous. Et quand là, c'est en plus fait par des Français et que ça se passe à Paris en plus, forcément je trouvais ça génial. Bon, alors, c'est avec Fabrice Luchini, alors ça on aime ou on n'aime pas, moi je trouve plutôt marrant, mais oui, c'est vrai qu'il est peut-être un peu vieux par rapport au parce que c'est lui l'aventurier, en fait,
par rapport à Indiana Jones, pas trop, hein. Oui. Harrison Ford,
bah non, c'est
pas non
c'est
plus
vrai, au final c'est vrai que grâce au dernier film d'Indiana Jones, on se dit oui, si, c'est possible. Donc ouais, non, là on est un petit peu là-dessus, mais non, il y a plein de qualités à ce film. Déjà, c'est super drôle. Alors, vu que ça s'est passé sur Paris, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. En fait, c'est tous les films qui se passent à Paris. Il y a un truc que j'adore faire. Je sais pas si toi, t'as pareil, peut-être à Lyon.
Tu refais le parcours du film?
Bah, le parcours, oui. Enfin, j'essaie juste de reconnaître les lieux, en fait. Ah. Parce que les parcours, c'est toujours n'importe quoi, parce que ils s'amusent pas à faire des trucs cohérents.
Ah, okay.
les réalisateurs, parce que de toute façon, les gens reconnaissent pas, donc ils voient pas. Mais à chaque plan, tu peux essayer de trouver dans quel lieu ça se passe. Et ça, moi, je trouve ça cool de le faire.
J'avoue.
Il y a ça, et puis aussi trouver des trames narratives qui se passent dans Paris, qui font découvrir vraiment la ville, qui sont basées sur les lieux. Ça, je trouve ça très stylé, hein. C'est un peu un truc que, c'est un peu comme dans Mes Chasses au Trésor, tu vois, où je fais découvrir la ville. Mmh. Je trouve que le film, de la même façon, en racontant son histoire, il fait découvrir la ville par les plans qu'il filme. Donc ça c'est sympa. Ouais. Et ça me fait penser aussi à mes jeux en ligne, et notamment Le Trésor du Roi de France. Tu te souviens, c'est un jeu qui est basé sur la ville, avec vraiment des détails historiques, et il y a une trame narrative qui s'inscrit dans la ville, dans son histoire.
C'est très chouette.
Et voilà, et ça, juste ce concept en soi, moi je le trouve très bien. Et donc là, c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment des scènes et lieux du film qui étaient dans Le Trésor du Roi de France.
Ah,
pour te dire. Tu vois, donc moi j'étais encore plus à fond en disant, trop fort. Donc voilà. Et oui, dans le côté drôle aussi, moi, il y a notamment une réplique à un moment du film qui m'a fait trop rire, parce que t'as Fabrice Luchini, il est en train de chercher un trésor. Je pense que je spoil pas du film, c'est juste un moment où c'était marrant. Mais, en fait, il recherche un trésor, il y a des énigmes, hein, donc il y a plusieurs étapes, et à un moment, il y a une étape, qui pose problème, parce que il y a plus les éléments pour la résoudre.
Et Fabrice Luchini. Comme la chasse au trésor, finalement. Quand on a
comme les chasses au trésor.
Comme quand on a mis un petit élément et que finalement il a disparu. Comme nos joueurs. Non, je rigole, c'était une mauvaise
blague. Ah, tu veux dire un élément futur physique sur place et qui a disparu. Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est un problème, et en fait, bah quand tu cherches un trésor, alors, ok, quand c'est en ville, c'est organisé par des gens, ça va aller parce que tu les as en contact, mais quand c'est organisé, quand c'est fait par des pharaons ou je sais pas quoi, tu vois, des gens qui a très longtemps, ça marche plus. Donc tu peux plus les contacter, et quand ta chasse au trésor elle s'arrête à cause d'un bug comme ça, bah franchement t'es pas bien. Et Fabrice qui dit à un moment il s'énerve et tout, il fait mais bordel et tout, mais pourquoi il y a cette énigme, pourquoi il s'est cassé la tête à faire une énigme alors qu'il suffisait de donner le lieu directement et c'était bon quoi. Ça m'a trop fait penser au créateur de jeux d'énigmes, tu sais, où tu veux dire mais pourquoi tu t'amuses à faire ça. Alors nous on a des réponses hein, bien sûr hein, parce mais qu'on trouve sûr. Ça marrant de faire l'énigme, mais là Fabrice Kini en fait il aurait pu ne pas avoir d'énigme, c'est vrai que dans l'histoire juste le lieu aurait pu suffire pour le besoin okay. qu'il avait, mais il s'est dit allez vas-y, on fait peut-être un petit kiff, on fait une énigme, sauf que vu qu'elle est buggée, du coup il peut pas avancer quoi.
Et les pharaons, tu crois qu'ils bêta testaient leurs énigmes ou pas?
C'est une bonne question hein, mais je pense que quand il y avait des méga trésors comme ça, ils pouvaient pas se permettre parce que ou alors si, ils devaient tuer les gens en fait.
Ah oui.
À qui ils faisaient bêta tester. Bah, il y avait trop gros enjeux hein.
Donc, imagine si on devait tuer nos bêta testeurs après chaque bêta test.
Ah.
Ce serait compliqué d'en chercher après.
Ouais, c'est ça.
Oui, on n'a pas trop ça à Lyon, ouais. On n'a pas trop de films, je pense que c'est pas du tout aussi cinématographique que Paris. Donc ça me fait
désolé,
ça met des étoiles dans les yeux là, ce que tu racontes, c'est chouette.
Bon, ça c'était un premier truc, mais il y a un gros sujet, sinon dans les actualités, ce sont les Golden Scapes. On en avait parlé déjà le mois dernier. C'est pas Golden Moustache, hein. C'est Golden Scapes pour Escape. Les Escape d'or, c'est les trophées des meilleures salles d'escape faits par The Escapers. Voilà, la cérémonie de cette année a eu lieu, donc ça y est, ils ont
distribué les premiers prix.
Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, comment ils font ? Il y a 100 salles qui sont présélectionnées. On vote et là maintenant, c'est les 25 premières qui ont été données. Donc voilà, il y a un classement qui est fait.
Ça a été animé par Sébastien de The Skippers. On est obligé de dire son nom, sinon c'est pas valide. Hein. L'épisode il est pas compté.
C'est vrai.
Et aussi Elina du coup de Loginomie notamment.
C'est ça.
Donc très chouette, c'est un duo qui marche bien, qu'on avait déjà vu pour le live de Choco Cerveau.
Et oui, voilà, c'est ça. Mais là, on est passé vraiment au niveau supérieur. Hein, c'est-à-dire que avant c'était la webcam chez soi, mais maintenant, c'était il y avait la vraie régie, tourner dans un vrai escape game. Donc c'est devenu hyper pro. Mais effectivement, tant mieux. Parce que le but, c'est vraiment d'être un équivalent peut-être des Oscars, tu vois. Moi, ça me fait penser à ça. Mm-hmm. Sur le cinéma, donc autant faire un truc qui claque. Et franchement, c'était vraiment le cas. C'est vrai que donc sur cette cérémonie qui dure peut-être à peu près 2 heures, le risque, c'est que ça soit un peu trop ennuyeux.
Oui.
Hein, que ça traîne dans le temps. Mais ils avaient vraiment prévu le coup, je trouve. Alors ça l'était peut-être un petit peu à voir. Hein. C'est vrai que ça dépend des gens. Mais ce truc de toutes les salles, enfin, il y a les 25 premières salles qui ont été évoquées. Et à chaque fois, il y a un petit mot qui a été dit. Pour donner un peu les qualités des salles, et c'est vrai que ça revient un petit peu, enfin les mêmes qualités reviennent souvent, tu sais, en disant ouais les scores sont incroyables, il y a un super scénario, il y a des super énigmes, tu vois, donc c'est un peu le risque et du coup ça peut être un peu en longueur, mais ils ont trouvé quand même des façons de rendre ça pas trop ennuyeux avec des autres intervenants qui présentaient les salles. Et puis il y avait plein d'activités aussi le long de la cérémonie, moi qui m'ont bien amusé. Qu'est-ce qu'il y avait du coup ? Il y avait déjà ils avaient une petite mascotte en fait qu'ils ont présentée. La mascotte c'était un drone et en fait le drone il allait de salle en salle et tu sais il faisait les vues sur Google Earth où tu montais ou tu descends et ça il avait filmé du coup en drone. Avec leur drone mascotte, ou alors ils avaient pris de Google Earth, je sais pas.
Ouais, c'était de Google Earth.
Ouais, tu penses, ouais.
Bon. Mais on dévoile pas les tours de magie.
C'était le drone. J'avoue, là, on est peut-être en train de tout casser. du coup, ça c'était marrant. Et notamment, ce petit drone, à un moment, il fallait passer de Paris à Lyon. Mais il a pas voulu en fait, hein. Il voulait rester à Paris.
Et il avait peur de jamais revenir en fait. Une fois qu'il est à Lyon, c'est trop difficile de repartir. Il le sait.
Ah oui, tu crois que c'est ça là ?
Mais oui.
Ah oui, bah, je l'avais pas interprété comme ça. Et non, mais parce qu'en plus, quand c'est arrivé, bon, je crois que j'ai vu un commentaire sur le live, mais du coup, Sébastien et Lina ont réagi dessus en reparlant un petit peu de cette rivalité entre Paris et Lyon. Mm. Et je me suis dit, on peut peut-être en reparler vite fait parce que on l'a pas encore évoqué au final sur le podcast.
Ah, à peine.
Bon, non, mais c'est vrai, on l'a pas.
Non, c'est vrai. Bah, il y a des petites piques de temps en temps, mais pas.
Ah ouais, ouais, d'accord, j'ai pas. Ouais, on a peut-être pas expliqué le cadre aux gens, mais on peut peut-être le redire vite fait. Bon, on est chacun à Paris et à Lyon. Ça, c'est une chose.
Attends, qui est à Paris et qui est à Lyon? Parce que là, tu vas trop vite, parce que c'est trop vite, perdu.
Ah oui, c'est vrai, tu crois que les gens savent pas?
Ouais. Donc, un trésor à Paris, c'est plutôt à Paris.
Merci. Non, mais voilà, c'est ça. Hein. Bon, donc, non, c'est pour The Pulp, il faut préciser, mais.
C'est Paris. Et oui, moi, du coup, Paris, l'équipe Team Paris. The Pulp est à Lyon, seulement à Lyon, et tout à Lyon.
Voilà. Bon. Voilà. Deux très belles villes, hein, oui, somme toute, en France. Bon, après, évidemment, les gens le savent, il n'y a pas de débat, normalement.
Oui.
Sauf que finalement, si, puisque sur le site de The Pulp University, qu'est-ce qu'on lit en bas?
La vérité.
La vérité. Vas-y, tu te souviens de ce qu'on lit?
Oui, ils disent que c'est la plus belle ville du monde, Lyon.
Ah voilà, ok, ouais, c'est ça. Ça dit Lyon est la plus belle ville du monde. Bon, il y a un petit peu de provocation forcément, mais c'est de bonne guerre. Il y a pas de problème. Et du coup, bon, suite à ça, moi, j'ai surtout le souvenir marquant de la route des cadeaux, non?
Là. Il y avait des cadeaux. Pourquoi il y avait le... Non, je l'ai pas là. J'ai pas l'anecdote.
Ah, t'as oublié déjà? Ah là là.
Vas-y.
Bon, dans la route des cadeaux, on allait un petit peu partout en France. Hein, c'est le calendrier de l'Avent de 2022. Et moi, je présentais cette émission.
Oui.
Et du coup, je commentais un petit peu le voyage.
Oui.
Et quand on est arrivé à Lyon, j'ai confirmé que c'était la plus belle ville de la région lyonnaise. Et que voilà, c'était bon.
Et oui, mais voilà. Tu sais, les Parisiens qu'on croise, ils sont tous là à dire qu'ils veulent déménager pour aller en région, en province.
Oui, oui.
Alors que les Lyonnais, ils sont bien à Lyon. Enfin, pas,
ah, tu penses?
Pas tous, mais...
Non, mais c'est vrai que de Paris, on veut partir en province, mais pas pour aller dans une autre grande ville. Enfin, je pense que c'est ça. Là. Peut-être certains Lyon, mais c'est je pense une minorité. Hein.
Ah ouais, bah je sais pas, Lyon. Ouais. Lyon, tu peux tout faire à pied, en vélo. Facilement, moi je me déplace entièrement en vélo et quand je prends le métro, je prends même pas de comment on appelle ça,
quand de
tu changes de métro, je sais même pas comment ça s'appelle tellement.
Mais une correspondance?
De correspondance, voilà, correspondance, c'est,
ouais.
T'as pas besoin à Lyon.
D'accord, oui, parce que c'est pas très grand.
Voilà, c'est pas
bon, ouais. Non, mais franchement, moi, j'ai pas de souci le fait que ça soit une très belle ville, hein, on est d'accord là-dessus. Mais peut-être que le mois prochain, j'arriverai avec des stats et tout pour te les montrer.
Enfin, non, très bon. Bien.
voilà. Bon, ben non, mais donc c'est un sujet qui, ouais, en fait, ça reste bon enfant et tout.
Bien sûr.
Et je pense que si les gens écoutent ce podcast, c'est qu'on s'est pas encore embrouillé là-dessus et qu'on arrivait à aller au bout.
Mais ouais. c'est une compétition qui montre qu'on est attaché à tous les deux à nos villes, et on est attaché à nos villes aussi parce qu'on fait des jeux de piste et que on apprécie être dehors, montrer notre ville, montrer son histoire, montrer ses petites anecdotes, et finalement c'est assez compatible d'aimer les deux. Juste au quotidien, c'est mieux Lyon, quoi.
Ben oui, c'est ça. Ouais, ben non, mais voilà. Non, mais t'as bien résumé. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas juste être chauvin pour le principe, hein. C'est qu'en plus, nous, vraiment, il y a un vrai attachement pour chacun notre ville. Ok. Bon. Donc ça, c'était la parenthèse du drone. Mais, ben non, parce qu'il y avait du coup d'autres trucs qui étaient cool dans cette émission. Ils avaient fait beaucoup d'acting. Hein, ils avaient préparé des petits sketchs et tout. Enfin bon, c'était marrant. Voilà, ouais, une petite prise de risque, on va dire, de leur part. Et puis aussi, il y a eu les explications de comment sont faits les calculs des Golden Scale, parce que ça, c'est vraiment le truc. Et Sébastien, il a pas juste présenté à l'oral. Je crois que c'était ça qu'il avait fait l'année dernière, vite fait. Non, là, il avait préparé toute une vidéo avec animation qui expliquait comment ça marchait. Et à la fin, je pense qu'on n'a pas forcément compris, hein, vraiment comment ça marchait, parce que en fait, tu sens que c'est compliqué, mais il essaye un petit peu. C'est un peu du Sébastien Sorcier, tu vois, où tu essaies d'expliquer globalement et je crois qu'on comprend quand même un peu l'intuition du truc, et on comprend surtout que derrière il y a des calculs mathématiques complexes pour peaufiner et qu'ils peuvent pas l'expliquer, parce que sinon ça serait pas ça serait pas visionnable.
Oui.
Mais franchement, c'est intéressant à voir. Et d'ailleurs, la petite vidéo, parce qu'on peut revoir le live hein, si on veut, bon, oui. C'est 2 heures, mais ils ont extrait la petite vidéo, ils l'ont publiée sur leur page YouTube. Donc, juste pour voir comment ça marche, pour peut-être le revoir plusieurs fois, pour essayer de bien comprendre, bah c'est possible. Et non, mais ce qui est sûr, c'est que de faire des calculs comme ça, c'est, je trouve, indispensable pour faire un classement qui a un peu de sens, parce que le classement de juste on vote et celui qui a le plus de points, c'est voilà, disons que c'est un peu simpliste. Et on avait déjà parlé non dans le
oui, on avait déjà fait exactement le même débat la mois dernier.
Oui voilà, ouais, c'est
mais
ça.
Mais c'était quand même un débat intéressant et c'est cool d'avoir cette vidéo explicative. Pour la petite histoire du coup, pour ceux qui rattrapent, moi j'ai travaillé à l'Escape du coup le soir des Golden Escape, donc j'ai pas pu le voir en live et j'ai pas encore rattrapé. Donc je bois les paroles de Johan, je vis à travers sa vision. C'est pour ça que je dis ah bon, c'est pas du acting pour le coup, c'est vraiment ah ils ont vraiment fait ça, trop chouette.
C'est ça. Mais t'avais une bonne excuse effectivement parce que t'étais game master.
Exactement.
Yes. Et il y avait des petits jeux aussi. Il y a des petits jeux pendant la soirée et il y en avait notamment deux. Et je vais te les montrer parce que je les trouve marrants en fait.
Cool.
Donc ça c'était des particularités, je crois qu'on l'avait dit, ils ont des trophées physiques.
Mm-hmm.
Ils ont des trophées physiques cette année pour les 3 meilleures salles. C'était des trophées en verre en fait qui avaient donc qu'on voyait visuellement et donc eh bien c'était le jeu classique de la foire, tu sais.
Devinez le poids.
Exactement.
Ouais. Très bien.
Bon. Donc du coup, il fallait deviner le poids en grammes du trophée et on pouvait mettre des propositions.
OK.
Bon. Qu'est-ce que tu fais toi pour essayer d'être efficace?
Ah, il y avait un plus ou moins ou c'était juste non?
Alors non, c'est pas plus ou moins, c'est chacun mettait une valeur et puis c'est le plus proche à la fin qui l'emportait. On avait 3 minutes je crois pour mettre là.
Bah le plus efficace, j'attends que tout le monde ait proposé des valeurs et je regarde le plus grand écart et je me cale sur un bord du plus grand écart.
Bah c'est pas mal du tout effectivement, mais ça c'est compliqué à faire parce que c'est vrai que tu sais jamais à quel moment les gens arrêtent de mettre et quelqu'un peut en mettre derrière toi, bon donc mais statistiquement c'est bien. Alors après comment tu fais pour parce que imaginons qu'il y ait personne qui vote pour être quand même le plus précis possible.
Le plus précis possible sans, donc j'ai pas d'information incroyable.
Bah tu le vois en fait hein, tu vois le trophée parce qu'il est en vidéo. On t'a dit que c'est du verre, donc t'as la.
J'estime le volume en comme un verre d'eau et je vais faire un poids d'eau, donc je sais pas si j'imagine que c'est de l'eau, ça doit être à peu près moyen comme densité, donc je sais pas, j'aurais dit un truc genre, enfin je sais même pas quelle taille ça a du coup, mais j'ai un truc, ça doit être pas loin de 500 grammes, parce que ça fait une sorte de pinte quoi.
Bah ça peut, mais du coup oui, tu vois, c'est que tu peux imaginer visuellement un verre d'eau à côté et voir si c'est plus ou moins que qu'un litre ou 500 grammes ou qu'un demi-litre pour OK. Oui, donc toi tu ferais comme ça.
Ouais, je
sais pas. Un peu à l'instinct tu serais.
Bah je peux pas l'immerger dans une bassine d'eau pour
avoir le volume. si tu fais ça, autant le peser hein, parce que au final t'as peut-être une balance à côté du coup. Ok, eh bien, en fait, je vais te dire, moi, comment j'ai fait. Et je suis assez fier.
T'as gagné ou pas?
De l'idée, bah, je vais te dire après, mais en tout cas, je suis fier de...
de l'idée. Ok, très bien.
En fait, ce que j'ai fait, c'est donc, je le voyais visuellement, et ben, je suis allé prendre une gourde.
Mm-hmm.
Et dans la gourde, j'ai commencé à estimer, en ajoutant ou en retirant de l'eau visuellement, est-ce que, en tenant dans les mains, j'avais le sentiment de prendre quelque chose qui avait le même poids que...
Ah, c'était scientifiquement de l'instinct.
C'est scientifiquement de l'instinct, effectivement. Et là, tu vois, à un moment, je posais le truc, je me dis, bon, là, je pense que ça peut pas être plus que ça, quand même, parce qu'ils vont pas faire des trophées non plus trop lourds. Mm. Donc, voilà, ce poids me semble pas mal.
Donc, c'était 600-700 grammes, quoi.
Et c'était plutôt 400 grammes.
Hein, ah ouais, quand même.
Ouais, c'est ça.
Très bien.
Alors, ok. Et cette méthode, ça te rappelle rien?
C'est pour dans Indiana Jones pour remplacer la statuette.
C'est ça.
J'adore.
C'est le début d'Indiana Jones. Et en fait, je trouve ça fou parce que quand est-ce que dans une vie tu te sers de ça quoi. Bah, je crois pas.
C'est
hein,
clair.
Jamais, hein. Même dans les escapes, ça fait partie des trucs. Je pense que tous les escapes ont dû imaginer de faire ça, mais tu fais pas, c'est trop compliqué, en fait, hein, de faire une bonne énigme qui marche là-dessus. Et là,
voilà,
enfin,
tu l'as
ça
fait.
Y est. Là, ouais, c'est ça, ça
et
marche.
Tu l'as fait en
Et en
visio,
fait,
en
le
plus.
truc.
T'as
Et je l'ai
remplacé la
fait,
statuette en visio, c'est beau.
Oui, bah, ouais, j'ai remplacé en visio. Non, je l'ai pas remplacé, mais en fait, c'est vrai que c'est la même chose. C'est-à-dire que tu regardes et puis t'estimes, voilà, au jugé.
Tu t'es fait écraser par une boule géante, je pense, non?
Oui, après, il y aurait eu ça normalement, mais bon. Et non, en fait, quasiment tout le monde était dans les entre 500 et 1000
Ok.
grammes. Et moi, avec mon 400, finalement, j'étais le plus proche de qui était 380.
Énorme, bien joué.
Ouais, c'est ça. Donc franchement, j'étais j'étais content. Bon, donc il y avait ce jeu, et puis il y en avait un autre qui était intéressant aussi, je trouve, où il fallait en fait imaginer donc le drone, tu sais, qui allait de ville en ville, savoir combien de kilomètres il allait parcourir.
Ah.
Alors, tu fais comment, toi?
Eh ben, je sais que si tu traverses la France en diagonale, c'est 1000 km. Et que là, on a fait que des grandes villes. On a fait 25. Donc, on a fait 24 voyages. Donc, je dirais qu'on a fait 24 fois un peu moins de la moitié d'une diagonale. Allez. En plus, il a dû faire Paris-Paris au moins une fois. Donc, je dirais... 24 fois 4, on est sur 100, 100. Donc ça ferait un peu moins de 10 000. Allez, je dis, j'enlève des parcours parce que de moi il a dû faire plus court, donc allez, 9 ou 8 000.
Ok. Eh ben écoute, c'est pas mal. Moi, ce que j'ai fait, c'est différent. Je suis allé sur Google Maps et j'ai mesuré une distance en faisant vraiment du random. Tu vois, je dis, allez, je pars d'un bout, tac, tac, et j'en fais 25 pour avoir peut-être un ordre de grandeur. Et moi, je suis arrivé vers les 10, 11 000. Et je crois qu'en sécurité, j'ai peut-être mis plus jusqu'à 12 000, je sais plus, en me disant, bah allez, c'est peut-être un peu plus quand même.
En fait,
Et
je me suis dit, si du coup c'est pas mal, parce que 10-11 000, t'es vraiment à la moitié d'une diagonale 24 fois. Mais je me suis dit, il y a forcément une concentration dans les grandes villes. Et tu vois, bah, Lyon-Paris, c'est pas si loin. Lyon-Bretagne, Paris-Bretagne, t'es pas très loin. Donc c'est pour ça que j'ai rebaissé à la fin de 500 à 400 la distance moyenne.
Ok, bah écoute, ouais, c'est pas bête de faire ça. Après, c'est vrai qu'il y a, je pense, un facteur incertitude là qui est très dur à gérer parce que voilà, tu sais pas du tout les salles où elles vont être. Il se trouve que c'était pile 10 000.
Ah, énorme.
Voilà, entre les deux. Tu sais, si on avait joué à deux, on aurait
On
dit,
a
bon,
pas
allez, vas-y, on fait
vrai.
la moyenne
Mais j'étais en
de
train de me
ça.
dire que j'ai enlevé la Suisse et la Belgique bêtement, alors que je sais déjà qu'ils sont dans le top 3.
Ah
Pas dans
oui,
le
bah
top,
oui, c'est vrai que
pas 3,
mais
mais dans le top
ouais.
4, du coup.
C'est vrai, et c'est vrai que ça éloigne un petit peu aussi, donc c'est vrai que ça rallonge, donc finalement, ça pourrait expliquer le 10 000, voilà.
Énorme. C'est cool.
Voilà, bon bah ouais, donc le petit jeu qui était marrant là.
Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un épisode de Recast. Tu vois Recast ce que c'est ou pas?
Oui, le podcast qu'on enregistre là.
Ah oui, c'est ça. C'est lui. Et on avait fait du coup un épisode qui s'appelait La quête du meilleur escape game. Franchement,
Ah
un
bah
nom qui
oui.
claque quoi quand même, si je peux me permettre.
C'est ça.
Et du coup, tu nous avais pitché présenté le meilleur escape game. C'était l'épisode 3, hein.
Oui.
Et c'était donc Enigma City. Désolé pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 3, je spoil. Et ils sont arrivés 17e, Yohan. Qu'est-ce qui s'est passé?
17e.
Ouais. Comment ça se fait que ton petit poulain, il soit 17e?
Oui, alors ben Alors, moi, ça reste mes salles préférées francophones, hein, Enigma City. Et ben non, mais parce que déjà 17e, c'est pas mal du tout.
Mais oui, je te charrie, mais c'est une sacrée place, 17e.
On est d'accord, mais bien sûr, c'est vrai que en fait, bon, on se doute hein, évidemment que c'est subjectif. De toute façon, les meilleurs escape games. Déjà, le truc, c'est que bon, c'est en fait c'est la mini anecdote, mais ils ont failli ne pas être dans le classement, en fait,
C'est vrai?
les Enigma City. Eh oui, bah parce qu'en fait, mais ça, c'est Sébastien là hein, qui a je sais pas, il s'est mal débrouillé parce qu'en fait, il avait exclu les escape games géants de
Ah.
The Escapers. Et en fait, ils sont marqués escape games géants. Pour moi, ça rentre pas hein, dans cette
Oui.
catégorie.
Ouais, c'était classe, les maths géants.
Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes en même temps dans un même lieu, mais bon, c'est qu'une partie du jeu, c'est pas très représentatif. Mais du coup, à cause de ce filtre, qui est un filtre qui est un peu discriminatoire envers les chasses au trésor qui sont des escalators. Peut-être, hein, mais bon. Voilà. Et du coup, ça a été exclu, alors que c'est quand même des escape games ultra bien notés, et donc il méritait d'être dedans. Et donc, du coup, là, c'est Sébastien de Masterio qui avait vu ça et qui a réagi, et voilà, du coup, ça a été rajouté. Et vu que les 100 premiers avaient été annoncés, du coup, il y a exceptionnellement eu 103 salles de nominés, parce qu'ils allaient pas retirer les trois dernières qu'ils avaient mis. Parce qu'il y a
Enigma City, c'est déjà 3 salles, en fait.
Et oui, c'est ça. Il y a 3 salles totales. Donc, voilà. Elles ont été les 3 rajoutées. Et ce qui est cool. Si elles avaient pas été mises, tu vois, tu m'aurais même pas posé cette question, parce qu'on aurait juste dit, oui, voilà, j'étais exclu comme un trésor à Paris. On est hors compétition, et alors que, on propose des trucs très bien. Mais donc, non. Du coup, c'était en compétition. Et voilà. Alors, pourquoi moi ça me plaît particulièrement, déjà forcément il y a un côté chasse au trésor, hein, t'es dans une ville, tu résous des énigmes dans une ville, donc forcément ça me fait penser à mes jeux, et ça moi j'aime beaucoup cet aspect. Et il y a d'autres que ça peut gêner. Bah alors que ça peut gêner, ne serait-ce le fait que de rencontrer d'autres équipes dans le même espace, hein, parce que vu qu'il y a cet espace commun de la ville et qu'il y a d'autres équipes en même temps, voilà, il y a des gens, je pense, qu'il va dire, ah, je préfère être vraiment tout seul, hein, dans mon espace. Donc, ça fait que certaines personnes, peut-être, aiment un peu moins, alors que d'autres escapes ont pas ce type de contraintes de réflexion. Donc, ils ont pas le problème. Et voilà. Alors que moi, je trouve cool qu'il y ait plusieurs équipes, pour le coup. En fait, perso, moi, j'aurais préféré encore plus. Mais bon, ça, c'est pas possible. Mais tu vois qu'il y a encore plus de gens un peu partout. Oui. Parce que imagine, tu vois, ça fasse vraiment ville. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, t'as des gens partout, mais voilà, parce que c'est la réalité, et c'est du coup plus réaliste. Là, c'est pas le cas, parce que les gens que tu crois, c'est d'autres joueurs, donc, du coup, bon. C'est vrai que c'est bizarre d'une ville où il y a que des espions, que des agents. normalement, on est censé être vraiment pas beaucoup, c'est pour ça que c'est mieux. Mais bon, et voilà, et c'est vrai que bon, nous, les joueurs en extérieur, il y a vraiment ce truc, mais là, ça peut pas, ça c'est dommage. Mais par contre, ce que je trouve bien, c'est que c'est Enigma City, ça je l'avais quand même dit, c'est des salles qui poussent très loin le curseur immersion et énigme, hein, les deux sont maintenus, et ça c'est bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si tu connais le podcast Immersion.
T'en m'as déjà parlé, je crois.
Oui, eh ben on va en entendre parler aujourd'hui.
Ah. Encore.
Et oui, bah ça je sais pas si les gens sont encore au courant, mais on va avoir des invités un petit peu, et c'est le podcast Immersion. En fait, eux ils aiment plus tout ce qui est immersion, et donc moins forcément ce qui est énigme. Et ben eux, c'est quand même une salle du coup qu'ils ont adoré malgré le fait que les énigmes soient développées, quoi. Donc tu vois, c'est une salle qui quand même arrive à réunir un petit peu les gens qui aiment bien
c'est un peu notre pendant. Et... Nous on est la team énigmes, mais on aime bien l'immersion, mais on préfère les énigmes, et eux, ils aiment bien les énigmes, mais ils préfèrent l'immersion.
Voilà, exactement, c'est ça. Donc voilà. Et oui, et il se trouve aussi que, bah, pendant les Golden Sky, bah, ceux qui ont vu le live, moi, j'ai fait une petite apparition où je pitch un petit peu Enigma City, où j'explique pourquoi c'est bien. Vous pourrez voir ça dans le live.
Trop bien. Je peux me permettre, d'ailleurs, d'exprimer ma mauvaise foi jusqu'au bout. Parce qu'elle est 17e et 12e Enigma City.
Ah, t'avais dit le dernier.
Et donc, 17e, c'est déjà un très bon score, mais 12e, c'est encore un plus bon score. Félicitations. Ah,
bah oui, bah c'est ça. Non, ils sont quand même bien débrouillés. Bon, bah voilà. Donc, du coup, les Golden Escapes, c'est cool. Après, on peut peut-être mettre des disclaimers ou pas, non?
Ouais, bah on peut peut-être quand même rappeler que ça a pour but de rester, bon enfant, la compétition entre escape, que en fait il n'y a pas vraiment toujours lieu d'être de comparer, et que il y a un truc assez exceptionnel dans les escapes, c'est que tu vas faire celles qui sont pas loin de chez toi ou accessibles depuis chez toi, et que le fait que une salle en Suisse soit meilleure qu'une salle à Paris ou pas, ou l'inverse, finalement ça change pas grand chose.
Oui, pour les gens qui sont dans une ville, effectivement, bon, la priorité, c'est forcément de faire les escapes à côté. Hein. Après, c'est pour les passionnés d'aller chercher, d'aller loin d'autres salles, quoi.
Oui, mais du coup, est-ce que ça te change quelque chose d'être 12e ou 20e? Tu vois, est-ce que ça te changera grand-chose? Donc, moi, je voulais rappeler juste que, en fait, il n'y a pas vraiment peut-être de lieu d'être de compétition, mais juste que c'est cool de récompenser ceux qui ont réussi à se démarquer, mais voilà, ça reste quand même à titre indicatif, tu vois. J'ai envie que le la bienveillance et l'entraide qu'on trouve actuellement dans le milieu de l'escape game perdure. Et pour ça, j'ai pas envie qu'on se mette à se mettre des bâtons dans les roues chacun pour essayer de gagner des titres. Donc voilà, ça me faisait penser à un discours de Johnny Depp qu'il a reçu en 99 un César d'honneur, et il avait dit, je peux essayer de le faire avec un accent anglais si vous voulez, je ne comprends pas vraiment le concept des prix en général et je déteste l'idée de compétition. Le seul contre lequel je me bats, c'est moi, pour aller plus loin à chaque fois dans mon travail. Personne n'est vraiment meilleur qu'un autre, nous sommes juste tous différents. Et c'est vrai que quand tu compares un escape game horreur avec un escape game un peu spectacle, immersion, avec un escape game très casse-tête, c'est difficile de savoir qui est le meilleur, quoi. On retombe dans ton truc de j'ai voté, j'ai plu à plus de monde, mais pas forcément, j'étais pas forcément moins bon ou meilleur. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant de relativiser et de pas se prendre la tête sur ce truc-là, même si c'est très cool et qu'on a la chance d'avoir plein de bonnes salles francophones et qu'il faut toutes les faire, celles qui sont dans le Golden Escape.
Voilà, ça je pense aussi. Et non, parce qu'après il y a quand même, bon, il y a des avantages, tu vois, au fait d'avoir ça, forcément pour les salles qu'on reçu des prix, ça permet de se mettre en valeur, donc
bien sûr.
Pour ça c'est bien, et puis ça fait aussi un événement où ça fait parler d'escape, et pour ça c'est bien. Mais moi je suis carrément d'accord sur le fait que le classement est très arbitraire, ne serait-ce que par les personnalités des gens qui ont voté. Et il y en a qui préfèrent, forcément aussi l'immersion ou les énigmes ou d'autres choses. Ils sont sensibles à certains détails, donc oui, ça reflète pas de réalité, quoi.
Alors tiens, intéressant. Je réfléchis en même temps, mais ça crée aussi une surenchère, tu vois. On se dit je vais devoir faire un truc encore plus waouh, encore plus démonstratif pour que ma salle soit visible. Et c'est bien par certains côtés, parce qu'on a des salles de dingue qui apparaissent en ce moment. Mais en même temps, d'un côté, c'est moins de salles. Parce que quand tu fais une salle à plusieurs centaines de milliers d'euros, avec plusieurs années de travaux, t'en fais pas deux à un budget plus raisonnable, par exemple. Et voilà, je trouve que il y a la place pour tout type de salles. Voilà, faut pas garder aussi que celles qui sont tout en haut du classement.
On est d'accord.
Très chouette.
Après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui... déjà qui cherche à faire toutes les salles des Golden Escapes.
Oh moi ça me donne envie. Je vous invite toutes les faire, moi.
c'est sûr. Non mais d'ailleurs c'était une stat intéressante là de qu'ils avaient partagé dans le live de combien de gens ont été faire les salles qui avaient été nominées au précédent. Alors il n'y avait pas les stats détaillées, mais en fait t'avais un trophée de celui qui en avait fait le plus et en fait. Tu vois que t'as pas des gens qu'on en fait 50 sur le top 100.
Ouais.
Alors mais ça reste réduit.
Faut que t'aies envie d'en faire 50 et que tu les aies pas fait avant, du coup.
C'est vrai qu'il faut déjà pas les avoir fait avant et puis s'organiser, parce que vu que c'est un peu partout en France qui se trouve, du coup c'est dur d'aller tout faire, quoi.
Bah oui.
Donc ouais. Et puis les stats étaient intéressantes. Je trouvais qu'il y en avait pas mal qui étaient partagées pendant le live. Moi je trouvais intéressant par exemple de voir que sur les top 25. Il y a que la moitié des salles qui étaient là. Tu vois, il y avait la moitié des nouveaux. C'est des nouveautés, en fait. Donc, il y a un peu ce truc de ça tourne. Et moi, je trouve bien que ça tourne. Tu vois, même le top 1, c'était pas même que l'année d'avant.
C'est vrai.
Et aussi, ils ont fait un truc, c'est le, parce que donc, t'as les 25, top 25, et puis t'as aussi, ils ont fait, je crois, le top 3 ou top 5 des nouveautés. Donc, en gros, c'était juste prendre les nouveautés parmi celle qui venait de sortir. Et là, du coup, il y a, je trouve, un parallèle un peu plus évident aussi avec les Oscars, où, parmi les nouveautés, lesquelles ont le plus marqué les gens, et comme ça permet de mettre en valeur un peu les nouveaux travaux, quoi. Parce que moi, je trouve bien que ce soit pas le choix les mêmes qui reviennent à chaque fois, parce que tu dis,
Oui, carrément. Okay. Carrément. Une fois que t'as eu, encore, si c'est la même enseigne qui revient, mais pour d'autres salles, mais si c'est la même salle qu'on remet en avant chaque année, c'est pas intéressant.
Comme un même réalisateur, tu vois, il peut revenir chaque année s'il veut sur les Oscars, mais c'est un film différent qu'il propose, quoi. Donc,
Non, mais voilà, c'était pour relativiser, en fait, mais c'est pas... ça me donne quand même trop envie de faire toutes les salles, et en plus, elles sont très différentes. C'est une force, hein, ça. On a vraiment des salles qui sont très variées, et on a envie vraiment de toutes les découvrir. Je sais que nous, on n'est encore pas allé à Genève, et à chaque fois qu'on en entend parler, j'ai une petite boule dans le ventre, j'ai envie d'aller découvrir ça, quoi.
Et oui, bah pareil. Bon, peut-être un autre sujet d'actu.
Ouais.
On est déjà à 40 minutes d'enregistrement, mais tout va bien.
On est bien installé. Donc... on est là pour durer.
Ouais, c'est ça. Oui, bah voilà, c'est bon, nous, c'est tranquille. Ouais, il y a une autre actu en ce moment. Il y a PAC ou PACAP. Alors, ça sera peut-être fini hein, quand l'épisode sortira. Mais, mais bon. Non, mais voilà, on a un petit peu commencé à regarder les énigmes. Alors nous, on savait hein, que ça serait certainement donc bah, plus dur que ce que nous, en tout cas, on a l'habitude de proposer. Donc pour nous, c'est des énigmes qui sont un peu dures, mais il y a quand même des points très positifs.
Ah.
Et moi, franchement, ah ouais, non, j'étais épaté. Mais en fait, déjà le site, il est incroyable. C'est-à-dire que le classement, donc c'est très bien. T'as directement ta position du classement. Tu peux faire des équipes avec des personnes. Ils sont limités à 6 personnes par équipe. Il t'explique très bien les validations et tout, comment ça marche. Et t'as des indices qui sont débloqués le soir même.
Ok.
Toutes les 20 minutes, à peu près.
Ah ouais.
Voilà. Donc, dans la soirée, t'as accès à toutes les aides que tu peux avoir pour te permettre de trouver dans la soirée et que t'attendes pas 3 jours. Donc,
trop bien.
Voilà. Vraiment, c'est toutes les bonnes idées, je trouve, ont été mises.
Le site, c'est Cryptomeria, c'est ça?
Cryptomeria, exactement. Et donc voilà, déjà pour ça franchement c'est chapeau. Et ensuite donc les énigmes c'est un peu dur, moi j'ai un petit peu transpiré, j'ai besoin d'indices, mais justement avec les indices ça m'a aidé. Il y a quand même une que j'ai réussi à... Alors c'est là où j'ai halluciné en fait. Enfin on était deux, on l'a fait avec Delphine, mais on a résolu une énigme de Isengrin sans indice. Ouais.
Ah ouais, ça s'arrête pas tous les jours.
Ça arrive jamais en fait. Donc j'hallucinais.
Isengrin, vous pouvez peut-être le connaître sous le loup, le repère du loup. Et du coup, voilà, il est connu pour avoir des énigmes qui sont très ouvertes. C'est ça. Hein, il y a pas mal de codes, mais qui sont parfois un peu cachés. Et, c'était plutôt un auteur de chasse longue durée, j'ai envie de dire. Pas d'énigmes de soirée, quoi.
Ouais, en tout cas, quelque chose assez complexe. Et là, alors, c'était complexe quand même, mais moi, ça m'avait semblé logique. Et du coup, accessible. Donc, franchement, on a transpiré quand même. Hein.
Ouais.
Mais bon, voilà, content de trouver. Et voilà, et pour l'instant, il y a une énigme que j'ai pas encore résolue avec les indices. Donc, malgré tout, bon, on peut pas tout trouver, quoi.
Pour la petite anecdote, du coup, j'avais rencontré Isengrin parce qu'il était venu une fois faire le Raid d'Ignion.
Ok.
Du coup, on avait pas mal discuté, on avait pique-niqué avec d'autres équipes le dimanche.
Ah, trop cool.
Et il a écrit, mais il a écrit des centaines d'énigmes, quoi. C'était vraiment... Je sais qu'avec Anna, à un moment, elle était sur un serveur où il mettait des énigmes en continu. Dès qu'une énigme était finie, il en mettait une autre. Et c'était que du stock qu'il avait d'énigmes qu'il a déjà écrites, quoi, tu vois.
Ah ouais. Ah ouais, donc il est prolifique, hein.
Ouais, bah ça fait plusieurs années qu'il fait ça, quoi.
Mm.
Ouais, donc un personnage hyper intéressant, si vous connaissez pas, il a vraiment une patte à lui, je trouve.
Ouais, je suis d'accord. Bon, ça c'était pour PAC ou PACAP. Sinon, on peut parler peut-être un peu de chez Apple, il y a plein d'actualités, je crois.
C'est vrai?
Vous avez un planning chargé, ouais. Bah,
on a un planning chargé de printemps, là, c'est le... C'est bon, on ressort de chez nous. Du coup, plein de petites choses, mais locales. Hein, donc, pour les gens qui habitent dans la plus belle ville du monde.
Ils vont pas comprendre, hein, tu prends des risques.
Oui.
Hein.
Ah oui, excuse-moi. Pour ceux qui habitent à Lyon ou pas loin. on a plein de choses sympas. Donc, localement, à Oulin, on va faire une intervention à la médiathèque. Voilà, on va répondre aux enfants sur... c'est quoi le métier d'être un créateur d'escape game? On aime bien ce genre d'intervention où on peut rencontrer les familles et tout, c'est chouette. On va proposer un bar à énigmes. On va faire ça deux fois. Une fois le 10 mai, le samedi du coup, parce que c'est la braderie à Oulin. Et en fait, avec la ville, on s'est organisé pour avoir un bar à énigmes vraiment sur la place qui est devant la salle d'escape game. Donc ça va être super sympa. Je crois que c'est 10h-19h.
On peut boire des énigmes ou ça se passe, qu'est-ce qui se passe là?
Exactement, tu viens au bar et tu commandes ton cocktail à énigmes. En fait, il y aura trois niveaux de difficulté. Il y aura enfant, famille et adulte. Et pour chaque niveau de difficulté, je crois qu'il y aura 5 énigmes. Et pour les enfants, ils ont même une petite carte pour se faire tamponner, pour valider qu'ils ont bien leurs 5 énigmes de résolu, pour avoir leur diplôme d'enquêteur professionnel.
Ouais.
Voilà, on va essayer de faire des choses un peu variées. Et d'ailleurs, si vous venez en fin de journée, vous aurez l'occasion de croiser Myriam. Myriam, c'est du coup une Game Master qui travaille pour nous à The Pull, chez Bon Vent Mamierlette. Je vais y arriver. Et on propose du coup le même concept de bar énigme, cette fois-ci le samedi 24 mai à Francheville, sur une fête qui s'appelle la Fête des Gaunes. Voilà. Et on a aussi une autre actualité, un peu plus partagée cette fois-ci, puisque c'est le week-end du 17 et 18 mai 2025. Ce sera la Japan Touch, donc à Eurexpo, où on fait... alors c'est pas Enigma City, c'est Enigma Town, je crois que ça s'appelle.
Ça ressemble, hein.
Ça ressemble pas mal, hein. Attention, on va se faire prendre un procès, je crois. c'est un village des énigmes, tout simplement, puisque Eurexpo, bah, c'est un salon, c'est un festival, hein. Un village d'énigmes où on sera du coup pas mal de créateurs d'énigmes qui ont fait un village comme ça en cercle. Il y aura donc, côté escape game, il y aura Maïté du Passeur, il y aura nous, il y aura aussi le Raid in Lyon qui aura un bar à énigmes également, mais cette fois-ci on pourra jouer d'anciennes énigmes du Raid in Lyon. Il y aura aussi Goupil, qui est aussi un créateur de jeux d'énigmes sur table, super fun. Et peut-être d'autres encore, mais qui sont pas encore validés, donc je peux pas le dire. Donc voilà, ça fait un endroit où on peut y passer facilement une demi-journée, une journée, puisqu'il y aura une multitude de jeux variés, de la petite énigme à carrément un escape game éphémère, quoi.
Ça donne envie, hein. Et ça se trouve, ça sera même plus grand en surface que Enigma City, hein. Enfin, je sais pas.
Non.
Tu pourrais croire.
Non. C'est assez petit, hein. On met nos stands les uns à côté des autres en cercle. C'est pas non plus, okay. Grand au point de faire une ville, pour de vrai. Mais voilà, du coup, c'est chouette parce que c'est les mêmes que l'année dernière. Donc on a recréé un peu bah, une petite famille là, c'est cool, j'aime bien le fait que ça se refasse encore cette année.
Ok, très bien. Bah, toutes ces actualités finalement, peut-être que sur tes réseaux de The Pull, ça sera donné, non, pour ceux qui...
Exactement, voilà, bah, partager. On va partager, je pense, un post pour chaque activité, mais on aura aussi, vu qu'il y a un peu d'actualité, je pense qu'on fera un post fin avril pour avoir l'agenda carrément du mois de mai. On faisait ça quand il y a pas mal d'actualités, on va le reprendre, je pense.
Ok. Très bien. Bon, Thomas.
Ouais, c'est l'heure de voyager.
On se lance.
Attention, attention,
le gros sujet.
Décollage immédiat. Votre vol en direction d'Athènes va bientôt décoller.
Et oui, c'est ça. On part pour Athènes. Alors, pas de spoil, évidemment, hein.
Ah, fallait pas dire Athènes.
Ouais.
Dans une ville en Grèce, on sait pas laquelle.
Ouais, non, mais non, pour les énigmes et compagnie. Ah. Non, parce que le but, c'est juste de te convaincre, de convaincre les auditeurs d'aller à Athènes. Parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a des salles qui sont ultra marquantes, il y en a beaucoup. Voilà, donner des petits conseils aussi sur tout ça. Voilà, le but c'est que ça soit un petit peu le guide ultime de la Grèce. Et en fait, je me suis carrément motivé à écrire aussi un article sur mon site, hein, sur le blog Un Trésor à Vrai.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton blog.
Non, on n'en a pas parlé. Il commence à y avoir des petits articles hein, que je rajoute.
Trop bien.
Et on pourra peut-être en reparler. Mais donc il y aura un article sur Athènes pour retrouver toutes les infos. En fait,
hein.
Là on en parle de façon décontractée, mais c'est vrai qu'à un moment, parce que le but c'est de vous convaincre donc de partir là-bas et d'avoir toutes les infos sous la main. C'est mieux que de devoir écouter le...
de se retaper 45 minutes d'actualité d'il y a un an
oui.
Pour retrouver une information sur Athènes. Excellent.
Et non, ça ne va pas. Hein. Donc, du coup, ça sera récapitulé. Alors, déjà, petite historique, mais pourquoi moi je suis allé en Grèce hein. Moi, j'avais déjà fait des voyages escape. Je suis allé d'abord à Budapest, Sofia, J'ai fait les Pays-Bas aussi.
Mmh.
Et j'ai demandé au fameux Guillaume Morin, tu connais peut-être le...
C'est celui
qui s'est escapé.
Qui a mis le plus de commentaires sur The Escapers, non?
Ouais, c'est ça. Ouais, plus de commentaires, je sais pas s'il a le record, mais parce que là du coup bah sur les Golden Escapes, ils font aussi celui qui met peut-être le plus de c'est le plus d'avis utiles. Et parce que mettre des avis, ça va bien, mais s'ils sont pas utiles, ça va pas. Mmh. Et du coup, regardez combien il y avait de plus d'avis utiles, il était le deuxième derrière Marie Mulet. Voilà.
Oui.
Il en avait
beaucoup
d'avis utiles. Ben voilà, c'est ça. C'est vrai que les deux mettent des avis très utiles. Donc franchement, c'est kiff kiff. Mais voilà, Guillaume, il a des très bons avis. Il va un petit peu partout en Europe. Et donc moi, je lui ai demandé où est-ce qu'il fallait aller pour jouer des salles d'escape game. Hein,
ben
faire
oui.
Un petit voyage. Voilà. Qu'est-ce que lui il conseillait en tout cas. Et qu'est-ce qu'il conseillait en termes d'énigmes surtout. Et là, il me parle d'Athènes. Et en fait, Athènes. Pour moi, c'est surtout de l'horreur.
Bah oui, j'ai noté pareil.
En fait, et tout ce que j'ai entendu, ouais, c'est ça. Et même genre qui fait peut-être un peu trop peur, quoi. Mm. Donc pourquoi se forcer à aller subir de l'horreur ? Et il m'a dit non, il faut aussi y aller pour les énigmes.
Ok.
Et il a bien fait d'insister parce que moi, je confirme ça. Merci Guillaume. C'était franchement une énorme claque et aujourd'hui ben, c'est vraiment ma destination préférée pour faire des escapes. Alors ok, oui, c'est la dernière où j'ai été et ça souvent ça aide parce que c'est comme la dernière salle d'escape que t'as fait, tu vois, oui, c'est la meilleure et tout. Bon, alors oui, c'est vrai, il y a un petit peu ça, mais franchement pas que. Et en fait c'est même confirmé parce que quand on regarde le TRPK, hein, donc le classement où c'est là pour le coup c'est pas juste la francophonie, hein, c'est là dans le monde. On regarde les meilleurs sites d'escape game, il y en a énormément qui sont concentrés à Athènes. C'est vraiment une zone où tu te poses juste à Athènes et tout autour, il y en a plein. Donc juste pour ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, non, et en fait, il y a des raisons aussi. Alors ça, c'est comme à Budapest et Sofia. Déjà, je trouve que ce qui est très cool, c'est que c'est pas très cher. La vie là-bas, il est moins cher. Et franchement, enfin, c'est deux fois moins cher, hein, les escape game qu'en France. Donc quand tu vas faire plein de salles d'escape game, t'es quand même content que ça soit moins cher. Et par exemple les Pays-Bas, bah non, ça fait pas, c'est plus cher qu'à Paris.
C'est le problème de Genève aussi, hein. c'est 90€ la place.
Ça c'est encore pire, ouais. 90€,
ouais.
C'est waouh.
Ouais, donc, quand tu dis bah je vais pas y aller tout le temps, je vais en faire plusieurs, tu fais waouh.
Oui budget. Bah... le budget, ouais.
C'est pour ça que ça fait plus d'un an qu'on en parle et ça fait plus d'un an qu'on n'a pas de billet de train, tu vois.
Oui, voilà, c'est ça. Et pourtant, vous n'êtes pas trop loin à Lyon. Hein.
Bah ouais, mais c'est parce que Lyon, c'est hyper bien placé, en fait.
Oui, voilà, bah bien sûr, pour la Suisse, je suis d'accord que c'est bien. Mais bon.
Pour le ski, pour la mer, pour la Paris, même, de temps en temps.
Ouais. Non, bah après, voilà, t'as peut-être des astuces. Hein. Tu crées un blog d'Escape Game et tu tentes de te faire inviter dans les, dans les salles, hein. ça peut. Hein. Nous, avec le podcast, on nous invite pas. Hein, voilà.
Non.
On
parle pas. Pourtant, quand Johan fait une salle, après, c'est sa préférée. Alors, allez-y, invitez-le.
Bah oui, voilà, c'est ça.
Mais non, c'est la marque des passionnés, ça va. On t'excuse.
Oui, c'est ça. Bon, bah donc ouais, c'est pas cher. Bah, on paye quand même 30€ par salle, mais c'est pour des salles qui souvent durent beaucoup plus longtemps là-bas et tu paierais facilement en France entre 60 et 100€. Donc vraiment très intéressant. Mais oui, donc il y a vraiment ce truc là-bas que les salles sont très longues. Hein, c'est presque une norme. Et on est en fait, c'est rarement. Enfin, après, je parle moi des tops, hein, des meilleures salles, parce qu'après. Il y a aussi plein d'autres agences où c'est plus normal, mais ça va très souvent au-delà d'une heure trente et peut-être que 2 heures est une moyenne, tu vois, pour te dire.
Ah oui, ok.
Voilà, de ce qu'on a fait, nous, en tout cas, c'était ça.
Ah, ça doit être fatigant parce que moi, je vois, on a 1h30 à l'escape. À la fin de l'heure et demie, les joueurs habitués sont quand même facilement crevés, quoi.
C'est vrai, et c'est carrément, c'est limite un reproche des fois qu'on pourrait faire, c'est ça, des fois c'est un peu trop long et du coup un peu trop fatigant, mais quand t'es passionné d'escape au final,
bah oui.
C'est plutôt cool, et voilà, hein, entre 1 heure de plaisir et 2 heures de plaisir, bon bah souvent, même si le 2 heures de plaisir est moins qualitatif que en termes de, voilà, ça fait au total plus de plaisir, hein, parce qu'on somme les secondes de plaisir, je sais pas, non mais c'est ça quoi.
Ok.
Donc ouais, et c'est vrai que bah nous c'est à Paris, on a la salle The Artifact que tu n'as pas joué, je crois, c'était le top 1 de l'année dernière dans les Golden Escapes, qui est une salle qui est vraiment très impressionnante, et elle dure aussi 1h30 et des fois plus. Et voilà, et en 1h30, tu voyages, tu vas dans plein de salles. À la fin, en gros, tu sais plus, tu comptes pas combien de salles t'es obligé de te concentrer pour, tu vois, c'est pas genre évident. Et sur pas mal d'escapes, tu dis oui, bah, il y avait 3 salles, ok, voilà. Là, ça fait partie des salles, ouais, où à la fin, tu sais pas combien il y en a. T'as voyagé plein de choses dans plein d'espaces différents. T'as eu un maximum d'effets waouh. Donc, l'expérience à la fin, c'est waouh, enfin, il y a un énorme waouh. Et il se trouve que bah là-bas c'est vraiment t'en as plein comme ça quoi.
OK.
Donc c'est ça, et j'en parlais un peu dans le dernier épisode, il y avait ce côté de c'était limite trop, tu vois, et moi j'avais une fatigue émotionnelle à la fin d'avoir trop de claques comme ça parce que alors il y a ça plus l'horreur hein, parce que l'horreur c'est vrai que ça fatigue.
Donc il y avait quand même de l'horreur.
Bah oui, alors il y a eu un peu d'horreur bien sûr parce que non mais c'est une des c'est la spécialité hein là-bas, il y a pas que ça mais et ouais, et les jumpscares, au bout d'un moment, enfin, le cœur, tu vois, il y a du mal. Surtout si ça dure 2 heures, hein, parce que oui. Ça fait plus de traumatisme, quoi. Voilà. Donc oui, des salles d'horreur, effectivement, c'est la spécialité, mais il n'y a pas que ça, et c'est ça qui est intéressant quand même de savoir, hein, c'est-à-dire qu'pour moi, on peut aller en Grèce, même si on n'aime pas l'horreur, parce qu'il y a de quoi faire quand même. Peut-être pas une semaine, mais quand même. Et alors déjà, il faut savoir que là-bas, il y a une agence qui s'appelle Paradox Project.
Ok.
Voilà. Je ne sais pas si tu as entendu parler un peu de ça.
Non, je n'ai pas trop regardé Athènes. Je suis très, très dans la découverte. Je bois tes paroles.
Ça marche, ouais. Ok, oui. Ce n'est pas une salle qui peut-être a encore une aura mondiale, mais ils sont dans le terre Pékin quand même hein, depuis un moment. Et en fait, c'est vraiment l'agence des passionnés d'énigmes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, nous, le curseur énigme, on va vraiment le pousser à fond.
Okay.
Ce qui est pas mal. Hein. Ah, pour nous, ça peut être sympa. Et là-bas, donc ils ont 3 salles et elles durent, par contre, chacune 3 heures.
Non.
Oh là là.
Tu peux pas faire les 3 en une journée, quoi.
Alors non, mais t'en fais même pas 2 en fait, parce que je te dis que 3 heures d'énigmes, c'est prenant et tu vois, c'est vraiment eux, c'est les énigmes à fond.
Okay.
Donc, c'est pas une salle où tu es tranquille et tout, l'endurance t'enchaîne. Non, vraiment, c'est très prenant. Hein. T'es non-stop en train de résoudre des énigmes et qui font bien réfléchir. Donc ouais, c'est vraiment à part.
Donc, que des salles de 3 heures, ils n'ont pas d'autres.
Alors si, en fait, j'ai dit pour simplifier. En fait, ils ont 2 salles de 3 heures et 1 salle de 3h20.
Ah oui, excuse-moi.
Voilà.
Ouais, énorme. Ouais, oui, parce qu'il fallait 20 minutes de plus pour qu'on fasse rentrer le scénario.
Bah ouais, il y avait trop de choses hein.
En tant que de gérant là, tu vois, je mets ma casquette de gérant, je me dis mais du coup ils ont aucun novice quoi qui vienne. Il y a personne qui dit viens, je pars pour 3 heures d'escape. Ça va être fun, je vais y aller avec ma grand-mère et ma fille, tu vois. C'est mort. Mmh.
Eh ben écoute, ça j'avoue, j'ai pas vraiment l'info, mais je pense qu'il y a quand même des novices qui vont, bah c'est juste que bah ils galèrent hein, forcément. Hein.
Ouais, et puis ils sont endurants, du coup.
Ouais.
T'es jamais allé au cinéma, tu commences par le Titanic, quoi, tu vois.
Oui. Ouais, c'est sûr que de commencer par ça, c'est compliqué, mais ça, pour le coup, je pense qu'ils le précisent un peu, hein, sur leur site. Il me semble, hein. Mais ouais, parce que c'est vrai que ça peut être dur. Mais bon. En tout cas, les salles sont incroyables, il y a énormément de pièces dedans, et les énigmes sont vraiment super originales, et ça, enfin, moi, j'ai trouvé même plus original que des salles en France, tu vois. Et oui, par rapport à Athènes aussi, forcément, c'est plus original. Donc voilà. Bon, ouais, ils ont 3 salles hein, là-bas. Il y en a une qui est assez ancienne, tu vois. Leur première, elle date de 2014, quand même. Donc c'était vraiment le début des. Et même, alors, bon, ça a vieilli, c'est vrai, mais il reste plein de trucs originaux. Hein, là-bas. Okay. Et 2 salles qui sont plus récentes. Et en fait leur deuxième, alors c'est elle qui est vraiment le plus haut hein, dans le terre Pékin. Et tu vois donc nous en 3h20, on n'avait pas fini. On n'avait pas fini en 3h20 et il nous a laissé plus de temps. Alors, je sais pas s'il le fait à chaque fois, mais du coup ça a dépassé. On est passé à 4h30.
Non.
Oui, c'est fou. Ben, je sais pas, non mais je pense qu'il s'est rendu compte qu'on appréciait en fait les énigmes et tout, et c'est vrai que de couper l'herbe sous le pied, enfin il nous restait pas mal de choses à faire hein, forcément. Du coup voilà, du coup ça a été prolongé et
beaucoup. Tu peux prendre ton casse-croûte ou
Et oui, alors voilà, ça c'est un truc particulier là-bas, c'est que t'as le droit, t'as un petit espace bar, enfin ils te disent c'est bon, tu peux venir avec, faire des pauses quand tu veux en fait, même et pour manger. Alors je pense qu'il y a des limites parce qu'à un moment il a peut-être un planning.
Ouais, mais, peut-être. Il la vend une fois par jour, ça suffit.
Ouais. Mais bah non, mais en fait même pour les joueurs, c'est vrai que ça peut être gênant parce que si t'as prévu un autre escape à un moment et que on te retient autant dans la salle, tu fais waouh. Hein, et nous, alors nous on avait pas d'escape après, mais on avait des visites prévues et tout. Alors du coup, on a dû un petit peu se dépêcher. Hein, on n'a pas débriefé très très longtemps. Mais bon.
Je suis sûr que Delphine soit d'accord sur le fait que vous soyez dépêché si vous avez mis 4h30, mais
ouais, bah voilà, c'est Delphine qui était pas pas trop contente, mais au final ça a été parce qu'on n'a pas débriefé très longtemps. Et ouais, donc enfin en termes de durée, tu vois, on est vraiment sur du game hotel, hein,
ouais.
sur le format qui dure toute la soirée. Et voilà. Et bon, alors. Oui, là il y avait de la fatigue, hein, pour le coup. Je peux te dire que même nous, au bout d'un moment, on commençait à fatiguer. Mais voilà, il y avait cette envie d'aller jusqu'au bout. Et en fait, voilà, il y a un scénario qui est vraiment complexe. On voyage dans l'esprit d'un personnage. Enfin, il y a un côté poétique aussi. Il y a plein de trucs où vraiment tu dis, mais c'est beau et c'est, on est sur vraiment une œuvre d'art incroyable, quoi. Donc voilà, tu veux, on veut aller jusqu'au bout. On tient le coup et on a réussi à finir. Mais voilà, et tu vois, ils ont une troisième salle qui où eux peut-être qu'ils ont peut-être tiré des leçons, j'en sais rien. Donc là ils ont moins fait, il y a beaucoup aussi, hein, énormément de choses dans la troisième salle, mais celle-là elle tient dans les 3 heures. Et aussi pour nous c'était plus simple, tu vois, autant la 2 on a peut-être la fatigue, on a eu besoin de pas mal d'indices, ouais, sur la fin, alors que la troisième on a fait beaucoup de trucs sans indices, donc on a trouvé ça même mieux, même si tu vois les moins classés. Ouais, il y a aussi cette histoire de scénario, parce que tu vois dans le 2 le scénario est très poussé, mais en anglais nous c'est un peu dur, tu vois, de suivre. Et ça c'est quand même bon, c'est une remarque, hein. C'est vrai que là-bas donc c'est en anglais, voilà, il faut s'accrocher un petit peu. Des fois t'as des vidéos, alors c'est sous-titré, donc ça va, mais quand même pas évident. C'est quand même bien d'être avec quelqu'un qui parle un petit peu anglais pour expliquer, et pour quand il y a des mots complexes, ou quoi, pour suivre. Donc voilà, et donc voilà, nous on avait peut-être un peu de mal à rentrer dans la salle 2 où le scénario était très complexe, mais pourtant ça plaît énormément aux gens puisque Interpk est très très bien noté. Alors que la 3, c'est, l'histoire est peut-être plus tranquille, et du coup nous on a mieux réussi à rentrer dedans. Et toi dans la salle 3 en fait ils ont pris, donc c'était un autre espace. Ah oui, eux aussi font un truc où c'est des salles qui c'est des suites. Donc t'as 1 et 2 en fait qui se suivent, et là la 3 il va y avoir une quatrième. Bon,
okay.
Et en fait, ça aussi je trouve ça dingue, c'est-à-dire que ça se suit, et en fait t'as des fins de scénario possibles au premier jeu, et en fonction de ça, quand tu rejoues la deuxième, t'as des débuts du coup possibles où ça va ça rebranche par rapport à ce que t'as fait. Le but c'est que tu vives quand même globalement la même expérience, mais tout le début ça rebranche différemment. Ils ont pensé, et du coup il y a plein de cas comme ça à penser. Ils nous expliquaient que en fait c'était un peu prise de tête. Finalement ils recommandaient pas de faire ça pour ceux qui se lançaient, parce que bon, à un moment bon. Et en plus je pense que tu sais il y a des problèmes de si tu reviens pas jouer avec la même équipe, comment fais. Enfin il y a plein de.
Et puis nous on a fait la réflexion avec Anna que à un moment c'était la mode, tu sais, de pouvoir choisir la fin, tu vois, un peu à mode Inception. Et en fait on s'est dit, je pense que ça crée plus de frustration que ça crée de plaisir, parce que bah derrière il y a, je pense on est pas mal de joueurs à dire hey, qu'est-ce qui s'était passé si j'avais fait ça, et puis comme tu dis je reviens mais pas avec la même équipe, je suis moins chaud pour ces trucs là mais
Et moi j'ai le même avis, hein. Moi en fait histoire de choix dans les scénarios, j'aime pas ça, parce que j'ai envie de tout savoir et je veux aussi la meilleure expérience possible, tu vois, je veux pas avoir à choisir et peut-être faire un truc moins cool. Bon après voilà, ça implique que le game master souvent il t'explique à la fin les différents trucs, donc bon ça prend du temps en plus, mais au moins t'es au courant.
En tout cas en tant que gérant, je me dis ça doit être quand même un marché hyper de niche, quoi, d'avoir des gens qui veulent faire 4 heures d'énigmes. Ça doit être vraiment un public international de grands fans. Mais à créer, ça doit être fou. Ça doit être totalement fou à créer. Ça doit être
genre libre. Oui, non, mais ils sont fait bien plaisir et tout. Et on voyait un petit peu dans le making of comment ils ont fait. Ils ont pris des lieux qu'ils ont refait complètement. Ils ont tout refait à l'intérieur déjà. Pour permettre ce qu'ils voulaient faire. Parce que c'est assez ingénieux et donc du coup.
Ok, trop bien.
C'est beaucoup de boulot. Et tu vois, sur leur troisième, en fait, ils ont pris une ancienne école de musique.
Ok.
Et du coup, ils ont fait leur escape sur le thème de l'école de musique, mais voilà, en se servant du lieu, tu vois, de façon de façon astucieuse. Donc, ouais, non, franchement, ouais. Et en fait, je trouve que, tu vois, l'enseigne à elle seule, elle justifie le voyage quand,
ouais.
quand t'es à fond sur les énigmes, tu vois.
Alors, j'ai regardé, parce que moi, je prends plus l'avion, hein. Je fais plus de trajet long.
Ah!
Et il faut 31 heures de bus ou train, ou 24 heures
ouais.
non-stop de voiture. Donc je suis pas sûr d'y aller tout de suite, mais
ouais,
je vis
putain,
ça par procuration avec grand plaisir. Yann.
D'accord. Ah oui, t'as vraiment décidé de plus prendre l'avion.
Ouais, ça fait ah, là, je sais pas quel âge avait mon petit, mais je dirais que ça fait bien 5 ans que j'ai pas pris l'avion au moins.
Ok.
Au moins, ouais, je pense.
Ah oui, bah c'est vrai que pour aller faire les salles, c'est difficile de faire ça, hein, là pour le coup.
Ouais.
Ouais, bah sinon, ouais, c'est Greta Thunberg, là, qui, elle,
il va en vol.
Enfin, il y avait ce truc, oui, c'est ça, voilà. ça consomme rien. Mais c'est long, c'est long. Okay,
elle peut
essayer,
là, mais je pense pas qu'elle serait bien accueillie, de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois-ci.
Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord.
on va pas le lancer dans la politique, là. Alors, les salles d'escape.
Ça change de sujet. Bon. Et oui, alors, donc, du coup, parce que, bon, il y a les salles d'horreur, mais en fait, il y a même d'autres salles qui sont pas d'horreur et qui sont incroyables. Et notamment, moi, j'ai vu une salle western, en fait, une parodie de
okay.
western, qui était ultra drôle, en fait. Et ça, c'est vrai que des salles ultra drôles.
Bah ouais, c'est chouette, ça.
Bah ouais, c'est chouette et c'est assez rare. En fait, là, ce qui rendait, je trouve, le truc vraiment drôle, c'est qu'il y ait un comédien sur place,
mm-hmm.
qui nous accompagne, en fait, régulièrement, et en fait, qui est super bon en impro.
Okay.
Donc tu vois, il jouait des personnages différents, il prenait des accents différents à chaque fois, il rebondissait de ouf sur ce qu'on disait. Et ça, en fait, ça peut être vraiment incroyable. Donc voilà. Donc, en gros, t'es limite un spectacle de one man show. Tu vois, t'as
un
humoriste qui arrive à bien réagir, qui connaît bien son sujet. Et bon, franchement, voilà. Ça, moi, j'ai vraiment adoré aussi cette salle. Bon. Ça, c'est les salles pas d'horreur, mais bon, il y a les salles d'horreur, forcément. Et là-bas, donc, il y a pas mal d'agences hein, qui ont fait des salles de ouf. Il y en a une, notamment, je trouve, qui se démarque un petit peu. C'est une salle qui s'appelle Lock Hill.
OK.
Et Lock Hill, ça te fait peut-être penser à autre chose.
Oui. Je sais pas. Le nom me disait quelque chose, mais du coup...
Oui.
Il n'y a pas aux Pays-Bas et une salle qui c'est pas pareil, non?
Non, mais il y a un jeu vidéo qui
okay.
Ressemble, qui s'appelle Silent Hill.
Ah, ok.
Voilà.
Mais j'ai pas joué.
C'est un jeu d'horreur, hein. Donc
okay.
voilà. Mais c'est horreur énigme, tu vois, ça fait partie de
okay.
ces jeux-là où il faut un petit peu réfléchir, même quand t'as peur. Et donc, cette agence, en fait, le but, c'est de faire une sorte de Silent Hill, mais version énigme. Donc, tu vois, Lock Hill,
ouais.
voilà, c'est vraiment l'équivalent avec un cadenas. Donc,
on voit.
Donc c'est ça. Et donc voilà, ils font des salles où t'explores un petit peu une ville, hein, c'est un peu le principe. Mais surtout, donc curseur de l'immersion chez eux, c'est poussé à fond. Ils avaient pendant un moment une année au Terpéka, c'était leur salle phare, c'est Chapelle et Catacombes.
Ouais.
Et elle était top 1.
Ok.
Donc c'est vraiment une salle où les gens étaient conquis. Et c'est vrai que t'as une salle qui s'appelle Chapelle et Catacombes. Bah t'as une vraie chapelle et t'as des vraies catacombes quoi.
Ok.
Donc,
sympa.
Déjà en superficie, c'est pas mal. Hein, franchement, l'espace monstrueux et puis plein de personnages. Alors bon, là le truc en plus c'est que c'est horreur et donc tu sais pas si c'est les mêmes comédiens ou pas. Tu vois, mais potentiellement il n'y en a pas beaucoup, mais il y a énormément de personnages que tu rencontres et ça fait vraiment super peur. Donc voilà, cette agence elle est vraiment particulière. Et puis oui, il y a ce côté jeu vidéo, tu vois, parce que c'est Silent Hill, mais ils ont repris des mécaniques de typiques des jeux vidéo de Silent Hill. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement fort en fait. Ça, c'est un des trucs moi qui
okay.
m'a fait le plus peur, parce que c'est vrai que dans les trucs qui font peur, t'as les jumpscares,
ouais.
ça bien sûr. Mais après, tu vas avoir l'ambiance effectivement qui
mm-hmm.
est tamisée, le son, le fait de mettre le son fort, tout ça, ça peut faire peur. Mais de te retrouver avec des mécaniques de jeux vidéo et en fait pour te dire vite fait, tu vois, c'est le truc de je sais pas si t'as peut-être vu des vidéos comme ça sur internet où t'as des personnages où quand tu les regardes ils bougent, quand tu les regardes pas ils bougent pas, enfin tu vois c'est l'inverse. et ça te fait peur parce que tu sais c'est un truc où tu contrôles pas et c'est pas habituel comme comportement. Et ça, moi, ça m'a tétanisé, tu vois, de voir ça. Mais j'ai trouvé ça super. Parce que, j'étais dans un autre monde, tu vois. J'étais vraiment dans un truc de jeu vidéo qui avait pas de sens. Et donc, très bon souvenir de ça.
Ouais, enfin, ça fait quand même pas mal d'expériences fortes et variées en très peu de temps. Hein. Un truc de fou. Hein.
Mais oui, non, mais je t'ai dit, hein, franchement, c'était dingue. Hein. Et encore là, ce que je dis, ben, tu vois, il y en a plein d'autres, là, de salles où vraiment, à la fin, t'es waouh, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et
combien de temps vous êtes parti du coup pour savoir pour faire rentrer autant d'escapes de 4 heures
Et nous on est parti juste 7 jours, je crois, 7-8 jours.
7 jours, ouais, c'est dur.
Oui, alors bon, voilà, sachant que là il y a des particularités en fait, hein, tu peux pas trop jouer le matin, c'est plus le soir. Et nous on faisait, alors il y a les paradoxes que tu peux faire le matin. Donc nous on mettait les paradoxes le matin, on faisait un ou deux escapes le soir. Voilà, c'est comme ça en gros qu'on se débrouillait. Okay. Et on arrivait à faire comme ça de la visite en plus. Et là-bas, oui, alors t'as un terme, par exemple, je connaissais pas trop les cinématiques. Les cinématiques, ça a du sens dans les jeux vidéo.
Ouais.
Mais dans un escape game.
J'aurais dit, dans Molly's Game, t'as peut-être des séquences un peu qui sont des séquences cinématiques, mais en fait, souvent, c'est des séquences où il se passe pas grand chose, quoi. Là, j'imagine que c'est l'inverse.
Ça peut ressembler, oui, à Molly's Game, parce que Molly's Game c'est vraiment aussi, dans la lignée de ce qu'il y a à Athènes, en fait, hein, en termes d'ampleur et tout, et d'histoire qui est racontée.
Et Molly's Game, alors, pour ceux qui l'ont pas, Molly's Game, c'est aux Pays-Bas. Et il est pas très loin de la Belgique, hein, on y accède assez rapidement. Et très bonne salle, mais un petit peu thriller, quand même. Elle est un petit peu oppressante quand même.
Ah bah oui, elle fait peur. Mmh. Bah oui, elle est peut-être pas horreur, mais quasiment, enfin, parce qu'elle fait très peur. Et ouais, donc dans cette salle, effectivement, t'as des moments où, en gros, tu vois des choses. T'es spectateur, en fait. T'es spectateur, il se passe des choses. Alors c'est vrai que c'est encore plus le cas quand t'as des acteurs, parce que...
C'est ça.
Du coup, voilà, quand l'acteur agit, tu fais rien. Et en fait, donc c'est ce qui se passe à Athènes, t'as des cinématiques et pour le coup, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est niveau cinéma, tu vois. C'est pas juste du théâtre. Vite fait, on a un niveau cinéma, en fait, devant toi. Et ça peut faire très peur aussi. Et en fait, ça sert des conseils, mais c'est même paradoxe qu'il m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit, c'est important d'ouvrir les yeux tout le temps. Même quand t'as peur, en fait. Et c'est vrai que, bon, tellement, enfin, moi, ça faisait super peur et t'as envie de fermer les yeux pour te réfugier un peu dans ta bulle, tu vois. Mais il déconseille de le faire, sur certaines salles, parce que ce qu'il y a à voir est tellement ouf que, qu'il faut, quoi.
Ok.
Voilà. Et donc, du coup, effectivement, ça vaut le coup, mais c'était dur. Moi, franchement, des fois, je disais, non, mais, et je repensais, je fais, bah, allez, ok, on double les yeux, mais vraiment, c'est pas ce qu'il a dit, hein.
Pour toi, paradoxe. C'est bon, ça que je fais.
C'est ça. voilà. Et oui, alors un truc aussi, c'est moi j'avais peur que ça soit trop violent là-bas à Athènes. Et en fait, franchement non. Alors aussi, à chaque fois que je réservais les salles d'horreur, je disais attention, hein, je veux pas de contact physique violent, des trucs comme ça, pour pas.
Et là au téléphone, les gens disaient, oh non, vous êtes sûr?
Ouais. Non mais en vrai, pour une salle, ça a été le cas. Là, je leur ai dit, oui. C'est une salle. Bon, du coup, je recommande pas forcément, mais tu vois où j'avais dit, moi je veux pas de tronçonneuse, et ils avaient dit oui, mais en gros, mais c'est pas long et c'est bien pour l'histoire. Bon, bah voilà, du coup. Non mais en vrai ça allait. Mais c'est vrai que, après ça, sur leur blocage, alors des fois ils peuvent pas, ils ont des limites. Et voilà, non mais c'est quand même bien, je trouve, de le préciser pour...
Très bien.
Quand on voyage, pour au cas où...
Non mais c'est une bonne astuce. Dis-le dans ton article, hein, que
oui. Ah, oui.
Ce que tu recommandes, c'est en ayant demandé que ce soit si soft.
Oui, voilà, c'est ça. C'est le petit conseil. Ouais. Voilà.
Bah, excellent, hein. Franchement, ça donne envie tout ça. Et tu nous as bien fait.
Pour conclure juste, il se trouve qu'à Paris, il y a une salle qui est ouverte il y a pas très longtemps. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que dans les retours, les avis que j'ai regardé sur The Escape Plans, c'est que ça disait waouh, enfin on a à Paris quelque chose du niveau de ce qu'il y a à Athènes. Et c'est vraiment plusieurs disaient waouh, c'est genre, j'ai l'impression d'être à Athènes, tu vois. Et du coup bah la salle c'est celle qui était top 1 des Golden Skeps cette année.
OK.
Voilà. C'est un peu beau. Pour dire que voilà, en fait à Athènes, c'est que des top 1 France.
Pas que.
Ouais, bah voilà, c'est ça.
Ouais, nous pour le coup en termes d'escape quand on veut dire que cette salle elle est bien, tiens, celle-ci ça va péter une salle de Paris, j'avoue. J'avoue qu'on a quand même de très belles salles indépendantes, mais il y en a peu avec un budget équivalent à ce qui se fait à Paris. Donc quand il y en a, ça se remarque, quoi, ça sort du lot.
Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah du coup, là, moi, j'ai fait le tour avec toi de Athènes, mais l'idéal, ça serait d'en parler quand même avec des pros de l'immersion, hein, qui ont peut-être un avis différent.
Pas que des énigmes, tu veux dire?
Bah voilà, c'est ça, parce que il y a eu la vie énigme, mais ça serait bien d'avoir aussi l'immersion. Donc, je vais en discuter avec le fameux podcast Immersion dont on a parlé. Donc, en fait, ce podcast, c'est eux qui gèrent le blog Le Meilleur Escape Game. Et ils ont en plus ce podcast où eux, en fait c'est un peu l'autre pendant des escape games finalement. Il y a la partie énigme, la partie immersion. Donc eux c'est des pros de ça. Donc d'avoir leur avis à ce niveau-là sur Athènes, je pense que c'est intéressant. Donc je vais en discuter avec eux. Je te laisse Thomas pour le moment.
Okay.
Et je te reprends dès qu'on a terminé.
Ok, bah super.
Très bien. Allez, à tout à l'heure Thomas. Et du coup, je reçois Alex et Valentin du podcast Immersion. Bonjour Alex et Valentin.
Salut Johan.
Salut Johan.
Bon alors, donc vous faites un podcast hein, comme nous avec Thomas, mais vous gérez aussi un blog, Le Meilleur Escape Game, double casquette, c'est bien ça?
C'est exactement ça en fait. On a commencé avec le blog lemeilleurescapegame.fr où on publie plein d'avis sur les salles qu'on teste. Et le podcast qui est plus sur les loisirs immersifs et dans lequel tu es venu parler de l'aventure fantastique.
Et oui, je suis venu en parler chez vous. C'était sympa, hein. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé cette expérience et pourtant c'est quelque chose où il n'y a pas beaucoup d'énigmes. Du coup, c'était pas très logique d'en parler dans Recast. Et c'est vrai que des expériences en général qui ressemblent à l'escape game mais dans lequel il y a quasiment pas d'énigmes, on a tendance à plutôt mettre ça dans le panier des expériences immersives, hein, donc c'est quelque chose de plus vaste où toute l'immersion est poussée beaucoup plus loin et c'est des choses très intéressantes, hein, dont nous on n'en parle pas trop avec Thomas parce que ça sort un petit peu de notre champ de compétences parce qu'il y a pas d'énigmes, mais Alexis et Valentin ils en parlent dans leur podcast Immersion, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les écouter. Et puis oui, le blog lemeilleurescapegame.fr, donc là ça parle d'escape, hein, vraiment. C'est pas un escape game, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le nom, parce que ça fait quand même un peu les gens qui ont décidé qu'ils avaient la meilleure salle.
Non, on n'est pas aussi prétentieux que ça.
Mais au moins, ce qui est bien, c'est quand les gens tapent sur Google le meilleur escape game, vous devez arriver assez rapidement.
Oui, on va pas se le cacher, hein, c'était le référencement avant tout.
Bon, bon, c'est pratique. Et donc, ouais, vous avez fait combien de salles au total pour savoir un peu?
Oula, on est à plus de 700, hein, je crois, à peu près.
Moi, j'en ai fait moins que toi, Val. Ouais. Moi, je suis entre... Ouais, proche des 500, presque.
C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup de salles, quand même. Peut-être que, en fait, c'est quelque chose que vous faites chez vous, là. Nous dire quels sont vos top 3, tiens. Est-ce que c'est quelque chose que vous sauriez dire, vous?
Alors, mon top 3. En troisième position, je mettrais V-End, une salle aux Pays-Bas.
Ah, yes, que j'ai joué.
Que tu as joué, ouais. Tu l'as adoré aussi?
J'ai trouvé très bien, mais j'étais mitigé par certains trucs, notamment le début qui m'a un peu fait halluciner. Non, la salle est quand même assez incroyable.
Ouais, scénario dingue et ambiance inoubliable pour moi. Donc, viennent dans top 3. En deuxième position, je mettrais Brandon Darkmore, qui est donc une salle en Allemagne, à Berlin, qui est sur un mix thème Ghostbusters quatrième dimension. Puis en première position, Chapel and Catacombs, dont on va parler sûrement dans cet épisode.
Ok, et oui. Cool. Et toi, Valentin?
Écoute, mon top, il ressemble quand même beaucoup. Mais en 3, c'est pas un escape, mais comme il est possible de le nommer Hotter PK, c'est quand même mon top 3. C'est le Live Trailer à Paris. Rien à voir avec un escape, mais c'est là.
Ah oui, il est en top 3, yes.
Ouais. Et en 2 et 1, ça ressemble beaucoup à Alexis, The End, parce que pour l'expérience émotionnelle que j'ai eue avec l'acteur dans cette salle, c'est inoubliable. Mmh. Et la salle numéro 1, c'est la même, c'est Chapel and Catacombs, dont on va peut-être dire un mot tout à l'heure.
Et oui, on va en toucher un mot.
Bon, en tout cas, très cool de savoir que le numéro 1, c'est toujours la Grèce, donc là, on parle de choses qui vous plaisent. Là, je vous reçois dans Eurecast. Vous savez, vous êtes les premiers invités, entre guillemets, hein, wow. de Eurecast. Hein, donc, donc, merci d'inaugurer ça.
Quel honneur.
Et du coup, je me suis dit, dans un podcast d'énigmes, pourquoi pas inviter les gens avec une petite énigme de bienvenue. Et donc, du coup, je vous ai préparé une petite énigme. Vous allez pouvoir y réfléchir. Et les auditeurs vont aussi pouvoir y réfléchir. J'ai deux énigmes pour vous. Ce que je vous propose, c'est de les donner les deux à la suite. Vous y réfléchissez et on en parle après.
Ok.
Voir si vous avez trouvé de quoi il s'agit. Alexis, Valentin, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors, je sais pas si vous savez, chez Un Trésor à Paris, nous, on a une lettre fétiche.
Non.
Non.
Oh là, c'est le X. Ouais, ça me semble évident, mais
ça commence bien.
Bah, c'est le X. Alors le X, il est carrément sur notre logo. Hein. Faut savoir, on a, dans le chapeau, il y a le petit X. Et le X, il représente l'emplacement des trésors.
Ouais.
Un trésor après, on cherche des trésors, donc on cherche les X. C'est du coup notre lettre fétiche. Et cette lettre, eh bien, c'est cool de l'encourager. Alors là, vu qu'on va parler de Grèce, on va parler du X en grec. Et la question, c'est comment encourager la lettre X en grec. Ça, c'est la première question. Et je vais enchaîner directement avec la deuxième. On va parler d'un sujet un peu plus osé, hein, mais je pense que de toute façon, les gens qui écoutent, hein, ils sont majeurs, hein, on va le supposer. on va parler de poitrine. Je pense que clairement, ça a une importance. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe sans poitrine ? Comment appelle-t-on la fête des amoureux sans poitrine ?
Ok.
C'est la deuxième énigme.
Tu nous poses une colle, là.
Ah oui, non, mais bien sûr, hein, nous, on est là pour challenger. Il y a deux énigmes.
J'ai le droit de donner une réponse comme
Alors,
ça
Alors, vu que maintenant, on a fait les deux, je sais pas si, Valentin, toi, t'as réfléchi.
Là, j'ai pas de réponse. Si t'as une réponse, Alex, tu peux essayer.
Valentine Breastless.
Non, mais on va réfléchir à deux, effectivement. La Saint-Valentin... Donc, on part sur la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, et du coup, sans poitrine. Poitrine, à quoi il fait référence? Bah, la... Ah. Eh ben, là, j'ai la réponse, je pense.
Mmh.
La fête des amoureux sans poitrine, je sais pas si je te la donne.
Attends, mais juste, Valentin, est-ce que, du coup, ça t'inspire pour l'autre énigme ou pas? C'est une énigme, j'avoue, qui est du coup un peu plus culture G, la première.
Ok. Après, du coup, pour la première, pour réfléchir à deux. Encourager, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas pigé pourquoi. La lettre X. Est-ce que c'est une référence au chiffre romain? Je pense
Alors
pas.
Alors c'est la lettre X en grec. Hein.
C'est en grec, ouais.
Alors vous savez qu'en grec, ils ont un autre alphabet, ouais. Et il y a une lettre X.
Et comment on l'appelle déjà, cette lettre?
N'est pas très fort en grec.
Ah, mais... bah alors, vous avez été en Grèce, mais sans apprendre l'alphabet.
Ah, il y a pas deux manières de l'écrire?
Bah, disons qu'il y en a une qui, quand tu l'écris, ressemble à un X, et il y en a une qui, quand tu la prononces, fait le X.
On n'est pas bon, hein.
Non, mais en même temps, il invite pas le podcast anime, il invite le podcast immersion. c'est normal.
bien sûr. Je vous mets dans vos retranchements, là.
Mais ça, mm-hmm. Je peux. Moi, j'ai la réponse.
Alors, vas-y, Valentin, du coup.
Bah, c'est Valentin. C'est pas ça, la réponse.
Non, mais parce que tu dis pas pourquoi.
Putain. Ah, mais je peux t'expliquer pourquoi, ouais.
Ouais, vas-y, explique.
Comment appelle-t-on la fête des amoureux? Si je m'arrête là, c'est la Saint-Valentin. Et sans poitrine, j'enlève le Saint. Et ça fait Valentin.
Bien joué, c'est ça. C'est on dit Valentin tout quoi.
Bien okay. Vu, bien vu.
Et par contre, la première, tu penses que ça peut me mettre sur la piste d'avoir la réponse comment encourager à être X en grec? Est-ce que ça, il faut savoir parce que ça j'ai cherché du coup que c'était chi la lettre.
Ah alors en fait tu dis chi, ça se prononce qui et ça c'est le X mais en écriture. Et moi l'énigme faisait référence à l'autre X lui en prononciation. Et ça du coup c'est peut-être plus dur à savoir.
Ok. En grec, du coup.
C'est là où ça. Ouais, c'est ça en grec. C'est la lettre xi. Kasi.
Kasi. Ok.
Enfin, ça se prononce kasi.
Ok. Et comment on encourage cette lettre? Donc déjà, est-ce qu'on part sur xi ou sur ksi dit indépendamment?
Vous pouvez partir sur kasi.
Sur kasi. Dit donc prononcer lettre après lettre. Ok. Elle est plus facile que la deuxième?
Je pense qu'elle est plus dure.
mais le fait d'avoir la deuxième normalement aide pour la première.
Ok. Donc dans la deuxième, en fait, le fonctionnement, ça a été qu'on a juste enlevé.
En vrai, c'est surtout savoir qu'est-ce qu'on a obtenu du coup dans la seconde.
Ouais. Ah ok. En plus. En plus, je sais que j'ai déjà écouté tes énigmes et tu fais souvent des spéciales dédicaces. Attends, j'ai la solution, mais...
Alors vas-y, balance.
Ouais, la solution, c'est Alexis. Mais... Ah oui, bah oui. Et en plus, j'y ai pensé, tu sais quoi. Je me suis dit, c'est aller quelque chose. Et c'est pas...
Pour encourager, effectivement, c'est on pas... utilise souvent ça, là.
Voilà, Alexis. Alexis.
Alexis, j'ai l'impression qu'il a toujours pas compris.
C'est aller dans
ça
un sens.
Ça dépasse complètement.
Aller PSG, tu vois. Je veux dire aller PSG, tu dis aller Xi, la lettre grecque, quoi.
Je viens de capter et voilà, je l'avoue, je suis mauvais.
Voilà, vous avez compris qu'en fait c'est le fait de savoir que c'était Valentin qu'on obtenait, se dire bah c'est peut-être du coup l'autre, hein, et qui est donc Alexis.
Ah, écoute, bravo pour ces énigmes spécialisées.
Des énigmes personnalisées, si vous les voulez, voilà, vous appelez.
voilà, c'est ça, je fais du sur-mesure. Et non, je trouve ça marrant.
Excellent.
Ouais, je trouve de réaliser que c'est son propre prénom, à un moment, il y a un petit peu une surprise. Mais ouais, non, je pensais pas vous perturber. En fait, c'est surtout quand il y a Valentin qui a été trouvé et que vous aviez en plus le XI. Et je me disais, mais là, enfin...
Là, c'est
on
bon.
Y est là. Normalement, il y a tout, mais c'est pas si évident que ça. Et ben, de toute façon, ça c'est un truc classique. Hein. Quand on crée les énigmes, ça semble toujours évident celui qui crée. De toute façon, je savais que j'étais là pour vous guider s'il y a besoin. Mais c'est.
Moi, je suis parti sur un truc hyper terre à terre. En fait, non, il fallait.
Je sais pas si c'est terre à terre. Tu vois, le plus simple, c'est le Saint-Valentin, parce que là, normalement, c'est très guidé. La Saint-Valentin, il y a pas de doute sur la fête des amoureux, poitrine, les saints. Et on obtient Valentin. C'est pour ça que Valentin, t'as réussi à l'avoir. Mais le XI est plus dur parce qu'il faut savoir que c'est le XI grec. Ça, pour le coup, et c'est vrai, j'avoue, quand on parle du X en grec, le XI, il ressemble beaucoup à un X. Donc, c'est clairement une fausse piste. Bon, voilà, il se trouve que quand on comprend un peu la logique, quand on se dit Valentin, c'est un des deux, ça peut... Moi, je comptais là-dessus. J'espère que vous disiez Valentin. J'espère qu'Alexis dise « Ah, mais non, mais je veux aussi mon... » Ah oui, ça marche. Et peut-être que XI, c'est la lettre en grec. Et... Bon, très bien. Allez, bah du coup, merci d'avoir réussi ce défi. On va pouvoir passer du coup à ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est Athènes. Hein, c'est le sujet du jour. Vous avez été déjà à Athènes à deux reprises, si je ne m'abuse.
On a été deux fois, ouais, en 2022 et en 2024, sur à peu près 4-5 jours, tu vois, par voyage.
D'accord. Et au total, vous avez fait combien d'escabiem là-bas, vous sauriez dire?
Non, je suis sur la page de notre blog qui parle d'Athènes. On a fait 23.
23 salles. Ouais. Pas mal.
En sachant que ce sont des salles qui durent 2 heures. Donc effectivement, enfin, 1h30, 2 heures. Donc ça fait beaucoup de salles. Hein.
Non, mais nous on a été une semaine, on a fait 10 salles. Et à la fin, on était rincés. On avait vraiment suffisamment joué, quoi. Donc vous avez joué, j'ai l'impression, quasiment deux fois plus en termes de densité.
Et pourtant, on joue quand même peu quand tu regardes vraiment les fans hardcore d'Escape qui vont jouer parfois jusqu'à 8 salles, tu vois, dans la même journée.
Ouais, il faut le pouvoir aussi, hein. C'est vrai qu'à Athènes, on peut pas avec la durée.
Mais en fait, tu peux t'arranger quand même en appelant les enseignes à l'avance et en demandant de t'arranger des créneaux le matin, ce qui est pas trop la particularité d'Athènes. Tu peux y arriver, tu peux arriver vers 6 ou 7 salles. Mais clairement, moi, d'accord, je pense que tu profites pas, quoi.
Bah, ouais, je pense aussi. Et puis surtout, l'horreur. C'est vraiment éprouvant physiquement et d'enchaîner trop d'horreurs à un moment.
Bah après, plus t'en fais, plus tu te désensibilises aussi. Tu t'accoutumes aussi au jumpscare. Je pense que vraiment, Athènes, on a passé un cap justement en termes de frayeur parce que on est ressorti de ce premier voyage beaucoup plus armé, beaucoup mieux armé en tout cas pour affronter les sales horreurs en général. Ça nous a un peu désensibilisé, je pense.
D'accord. Et vous avez trouvé des ressources en vous?
Si tu veux, il y a eu un avant et un après Athènes pour nous dans les expériences d'horreur. Avant, avec Alex, on était ultra flippés. On évitait souvent les expériences d'horreur. On n'osait pas explorer les salles tout seul.
Mm-hmm. On ne regardait pas de films d'horreur.
On ne regardait pas de films d'horreur, c'est vrai. Et Athènes, ça a été un grand vaccin pour nous, tu vois. Où, clairement, bah... Maintenant, on peut aller dans quasiment toutes les salles d'horreur. Et en fait, on était passé à côté d'un genre finalement qu'on adore.
Ok. Ah oui, j'avoue, ça c'est intéressant. Et est-ce que sur les autres salles, vous avez moins peur? Parce que Athènes fait vraiment plus peur que la moyenne ou
Ouais, moi je dirais quand même que Athènes fait très peur parce que il y a plus d'acteurs dans les salles, le son est très fort et ça c'est impressionnant. Les acteurs peuvent parfois aussi crier et ça c'est encore peu le cas en France. Ouais. Quelqu'un qui crie dessus comme ça c'est extrêmement effrayant. Par contre, paradoxalement, on s'est toujours senti en sécurité avec les acteurs dans le sens où, je crois que tu vas en parler un peu plus tard, mais on n'a pas eu peur de se prendre des coups, alors que c'est le cas dans d'autres pays, tu vois.
Ouais. D'accord, bah c'est intéressant, mais on peut en parler tout de suite. Hein. C'est vrai que la violence dans les salles à Athènes, moi, c'est un truc qu'on m'avait raconté. Bon, c'était des rumeurs, en fait, comme quoi ça pouvait être assez violent. Moi, on m'avait parlé même de tasers dans des salles. Vous avez déjà vu des tasers ou pas?
Non, alors, je sais qu'il y a un taser dans une salle en Espagne, on n'a pas fait. En Grèce, oui. En fait, je pense que on peut le dire à tes auditeurs parce que, disons que c'est une salle, ne la faites pas si vous n'êtes pas prêt à subir de la douleur, à subir aussi un acharnement de l'acteur. Ah. C'est Lethal Decision 1. Et cette salle, on l'a pas fait parce qu'on savait que nous, globalement, en fait, on veut pas du tout soit être blessé dans une salle, soit prendre des coups, soit avoir en fait des douleurs volontaires de la part d'un acteur. Je sais que ça peut paraître peut-être bizarre pour ceux qui sont pas trop habitués aux salles horreur, mais il y a vraiment un public pour ça. Il y a des gens qui vont chercher ça. Et malheureusement, il y a un amalgame qui est fait entre cette salle qui est plutôt un cas isolé et l'ensemble des salles d'Athènes.
Ouais, ok. Et oui, parce que moi j'ai pas vu de taser du coup dans toutes les autres, mais ah bah c'est intéressant. Et c'est vrai qu'à Lethal Decision 1, j'ai vu les avis et ça disait que c'était quand même très, enfin peu d'énigmes et beaucoup de courses poursuites etc. Et du coup je l'avais pas faite. Par contre la 2, il y a vraiment des meilleurs avis. Moi je l'ai faite et pour le coup c'était plus intéressant. Mais
bah je pense que ce qu'il faut dire c'est que nous avec Val, le style d'horreur qu'on apprécie le plus en fait c'est l'horreur cinématographique. C'est celle qui va se rapprocher le plus d'un film avec des scènes marquantes. C'est nous, c'est vrai que je pense que l'horreur psychologique, un gars qui te pousse à bout, qui t'insulte, qui va te faire du rentre dedans sans arrêt, c'est peut-être moins notre style à nous. Et on va préférer des belles apparitions, des belles chorégraphies. Et c'est vrai que sur ce au niveau de cette dimension-là, je trouve qu'en Grèce, t'es quand même assez bien servi. T'as beaucoup de salles très cinématographiques.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense d'ailleurs à ce niveau-là, je pense que c'est l'Exorcista qui est vraiment ultra cinématographique. Enfin, pour moi, c'est celle qui l'est peut-être le plus, non? Enfin, vous pensez à ça aussi ou?
Ben, effectivement, je pense que c'est bien de citer cette salle parce qu'en plus, elle s'inspire d'un film et elle essaye d'en reproduire des scènes cultes. Qui pourtant sur le papier te paraissent théoriquement impossibles à reproduire en vrai. Et c'est pourtant ce qui se passe. Si vous allez la jouer, vous allez revoir des scènes du film et ça c'est incroyable quoi.
Et d'ailleurs le terme cinématique, enfin moi je le connaissais dans les jeux vidéo. Au cinéma, bon je pense que ça n'a pas trop de sens, mais dans les escapes non, et c'est vraiment à Athènes que j'ai découvert ce terme en fait. Les gens en parlaient et j'ai vu que même du coup dans les reviews ça ressortait parce que c'est vraiment des moments où t'assistes à des scènes de cinématographiques quoi, et comme une scène cinématique dans un jeu.
Exactement, il y a une forme de théâtre en fait qui se déroule sous tes yeux et il y a des choses que tu vois que dans ce pays-là parce que ils ont un certain nombre d'acteurs aussi, ça on peut peut-être en parler, mais le nombre d'acteurs par salle aussi est assez colossal et en fait ces acteurs font des chorégraphies quand c'est des salles horreur où ils se mettent je sais pas dans des positions complètement inhumaines avec des lumières qui les éclairent, enfin je sais pas, il y a toute une scénographie, un son et lumière centré sur l'acteur. Et ça, c'est des séquences que tu vois quasiment que dans les salles grecques, quoi.
Bah, il y a le live thriller quand même à Paris où il y a un peu ça, il me semble, hein, quand même, hein, des moments où t'es juste spectateur et c'est moins impressionnant que ce qu'il y a en Grèce, hein, je trouve. Peut-être que live cinéma, hein, qui est le prochain projet là de Locke Academy, fera des cinématiques, hein, ça on peut le supposer. Mais ouais, non, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Là-bas. Ok, du coup, moi je suis curieux de savoir c'est quoi vos salles préférées? Alors je pense que on a compris hein, que que chez Lockheel ça vous a bien plu Chapelle à la Catacombe. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres salles pour vous qui sont vraiment les gros incontournables à faire là-bas?
Ouais, si je peux commencer, moi j'aimerais te parler de deux salles surtout. Il y a la première, c'est Don't Take a Breath. Je sais pas si tu l'as fait.
Je l'ai pas faite.
Ok. Don't Take a Breath, la particularité, c'est qu'elle est inspirée d'un film qui s'appelle Don't Breathe, qui est un film vraiment à suspense, où il y a un groupe de jeunes qui va aller cambrioler la maison d'un militaire aveugle. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu vas rejouer complètement le film. Le mec a reproduit les décors, il a le masque de l'acteur, et c'est vraiment un... T'as vraiment l'impression d'être l'acteur en fait du film, de faire les actions. Il y a assez peu d'énigmes, je crois que on avait compté 13 énigmes, mais tout dépend ce que toi tu avais appelé énigme. Si pour toi retrouver un objet et le placer au bon endroit, c'est une énigme. Et
ben... Ça en fait, c'est partie des trucs où chaque fois que je le fais, je fais ouais bon.
Enfin, non mais il y a un débat. Hein. Qu'est-ce qu'une énigme évident, ouais. Tu vois
ouais,
qu'est-ce qu'un escape
moi,
game
ouais, si, enfin. En fait, des énigmes, c'est vrai qu'on pourrait dire juste de la fouille, trouver un truc. En soi, c'est une énigme parce que le truc a été caché, ouais. Mais il n'y a pas trop de réflexion. C'est juste de la fouille. Et ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de réflexion. Hein. Si c'est juste placer un objet où c'est évident qu'il va à cet endroit-là, bon, c'est plus une action, quoi.
Mais de toute façon, tu n'y vas pas pour ça. Hein. Tu y vas vraiment pour vivre un truc hyper immersif. Et la deuxième dont je voulais te parler, c'est Houdini. Houdini, en fait, c'est une salle sur le magicien. Mais tourner à la thématique horreur. Et là, ce qui est dingue, en fait, c'est que ils vont vraiment faire des tours de magie. C'est de la grande illusion, en fait, qui se passe devant toi. T'es inclus dans la scène, donc c'est ça qui est encore plus fort. C'est que quand tu vas voir un spectacle de magie, t'es dans les gradins, t'es hyper loin. Là, non, t'es dans le cœur de l'action. Et ils ont inventé toute une histoire autour de ce personnage, en fait, qui est une histoire fictionnelle, hein, bien sûr. Les transitions entre les pièces sont incroyables. Les effets spéciaux sont dingues. Si vous y allez, d'ailleurs, le problème actuel, c'est qu'ils ont subi en fait des gros soucis avec le voisinage en termes de nuisances nocturnes. Et si vous avez déjà joué à Athènes, vous savez à quel point ça fait du bruit. Et du coup, ils ont été obligés de déménager la salle. Je sais pas si c'est déjà fait ou pas, mais elle va être relocalisée ailleurs à Athènes, en fait.
Et mais ça, c'est d'ailleurs un truc que je comprends pas. Hein, quand comment ça se fait qu'ils soient capables de faire des sons aussi forts par rapport aux voisins? À un moment, je sais que Live Thriller, ils ont eu des soucis avec ça, mais même Live Thriller, j'ai l'impression que c'était pas fort par rapport à ça.
Des sons aussi forts tout court, parce que nous, on l'a pas précisé, mais pendant notre deuxième tournée à Athènes, on a dû porter des boules caisses parce que le son avait vraiment monté d'un cran. Je sais pas si c'était ton cas ou pas.
Mais en fait, le son, c'est carrément tout un sujet dans mon expérience, parce que moi c'est dans Chapelle et Catacombes que j'ai commencé à avoir une salle qui avait vraiment beaucoup de son, hein, et beaucoup plus, et j'ai pas eu de problème jusque là. C'est vrai que moi en fait dans les escapes j'avais peur de la violence, donc dans les mails à chaque fois je précisais attention, nous on veut pas être trop malmenés, donc ça c'était ok, mais j'avais pas anticipé le son, et moi je suis assez sensible au son, et du coup Chapelle et Catacombes ça m'a vraiment gêné le son, hein, et pendant quasiment tout le jeu, et franchement j'ai regretté parce que ça nuit à mon expérience. Et en fait ils nous ont expliqué que là-bas ils mettent le son fort parce que les gens veulent du son fort, parce que ils trouvent ça mieux, hein, la plupart des joueurs ils trouvent ça plus immersif, sauf que c'était pas un truc pour moi, et j'ai trouvé une solution pour les fois suivantes. Et attention, c'est le petit tips, en fait ce que je faisais c'était je cherchais la caméra quand le son est trop fort, parce qu'en fait il faut arriver à leur dire, et moi j'appelle les catacombes, j'ai pas osé leur dire parce que enfin j'ai pas trouvé de moyen, et le son étant tellement fort que tu peux même dire ah, enfin ça fait rien. Alors ok, dans la salle ce qui est cool c'est que t'as des petits boutons pour appeler à l'aide. Moi je me suis dit non, je veux pas faire parce qu'on n'est pas un cas d'urgence et tout, et j'ai pas osé, et je m'en suis voulu. Alors que donc dans la fois suivante où c'est arrivé, j'ai fait un signe à la caméra et j'ai fait des gestes pour dire son à moins fort, et du coup ils ont baissé le son, et du coup l'expérience après était bonne. Donc voilà, c'est je pense le truc à faire, parce que eux ils peuvent gérer le volume. C'est vrai que mettre des boules caisses c'est une solution, mais c'est quand même moins sympa, et du coup tu t'entends moins aussi avec les autres, donc c'est dommage.
Je suis d'accord.
C'est un truc qui est pas forcément évident, parce que c'est vrai qu'il y a un côté sortir de l'immersion. Tu vas chercher les caméras et tout, faire des signes.
Ouais.
Mais à un moment, il faut, parce que ça va jouer sur toutes les versions.
Et c'est vrai que je suis curieux, parce qu'on l'a fait deux fois, Chapel and the Catacombs. On l'a rejoué la deuxième fois.
Ah oui.
Ouais. On n'a pas été tellement gêné par le son. Peut-être que ça dépend des sessions. Ouais. Mais par contre, il y a des salles où, clairement, tu sors de là avec des acouphènes insupportable quoi. Et donc là, à partir de ce moment-là, on avait toujours des boules caisses dans la poche, et dès qu'on voyait que c'était trop fort, les fois où on a eu des acouphènes, on leur a dit à la fin c'était trop fort, le gars nous a dit, et pourtant je vous l'avais mis à un niveau de non atteignant de base, tu vois.
Donc, ouais, là, eux ils ont prévu de niveau bah ouais, bah des fois voilà, on peut être trop sensible. Bah c'est aussi, ça dépend peut-être des gens qui vont voir des concerts ou pas, parce que quand tu vas avoir des concerts souvent, tu peux avoir des problèmes d'audition et du coup tu te rends pas compte que le son est fort. Moi perso c'est pas mon cas et du coup mon audition elle est normale. Hein, donc le son,
c'est vrai.
Il est trop fort des fois. Parce que ouais, je trouve même gênant des fois quand elle est basse, quand tu les sens dans le corps et tout, ça résonne. Bon, ça encore, ça peut aller, mais déjà ça j'aime pas trop. Mais des fois, mais en fait c'est aussi pour les énigmes, hein, c'est-à-dire qu'à un moment pour pouvoir réfléchir, quand t'as du son trop fort, moi j'arrive même plus à me concentrer. Hein.
Bah, tu communiques autrement en fait. Mais c'est compliqué. Ouais.
Ouais, moi, je communiquais en disant résolvez l'énigme, mais moi, je me cachais, je me bouche les oreilles. Donc bon, ok. Bon, en tout cas, Valentin, on a bien noté pour tes deux salles coup de cœur bonus. Alex, toi, t'en as peut-être aussi.
Ouais, non, juste c'est à peu près les mêmes que Valentin. Juste, je voudrais mettre en avant une salle qui s'appelle Manifesto. C'est donc une salle sur une thématique tango. Une salle horrifique, une salle très poétique qui certes est effrayante, mais je dirais quand même relativement accessible, et avec vraiment des scènes, des belles scènes, des belles chorégraphies justement d'acteurs et des apparitions qui changent vraiment de ce qu'on a pu voir ailleurs à Athènes. Voilà, j'en dirai pas plus, mais pour moi il faut pas passer à côté parce que c'est vraiment une proposition atypique.
Très bien. Bah écoutez, c'est cool d'avoir ces avis, parce que bon, moi je conseille surtout les salles avec les énigmes en fait, et du coup d'avoir des salles conseillées par des pros de l'immersion, ça peut être aussi bien pour ceux qui aiment beaucoup ça. Donc tout ça c'est noté. Et maintenant on va parler de la salle énigme qu'il y a à Athènes. Hein, c'est Paradox Project. Et donc Paradox Project, hein, je l'ai dit, c'est vraiment la salle qui pousse le curseur des énigmes au plus loin. Avec voilà plus de 3 heures dans chaque salle d'énigmes, et du coup pour des passionnés d'immersion qui ont peut-être plus de mal quand les énigmes sont trop présentes, en tout cas ça a bloqué. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous ça a été difficile cette expérience?
Il y a plein de raisons à ça effectivement, et ce qui a été difficile pour Paradox Project 2, c'est qu'on était déjà que 3 personnes et que c'est à mon avis un peu juste pour la quantité d'énigmes à résoudre. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le gérant nous a laissé le temps de jouer même si on trouvait pas, donc nous a donné assez peu d'indices si tu veux, et du coup ça donnait des séquences où en fait on galérait, et au bout d'un moment en fait tu perds un peu patience parce que t'as une tolérance, tu vois, à la recherche d'énigmes, surtout quand t'enchaînes les salles et surtout quand c'est aussi long que ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a plein de moments du jeu on est sorti complètement de l'immersion, de l'histoire. C'est une salle où t'as la possibilité d'aller te poser, prendre un café, de manger ton sandwich si tu l'as amené, et ben on l'assiste occasion à plusieurs reprises parce qu'en fait on n'accrochait pas, tu vois, on est sorti vraiment à plein de moments de l'histoire quoi.
Mais justement moi je pense que ça manque d'indices, ça manque cruellement d'un game master qui soit un peu plus présent, parce que quand tu vois que ton équipe rame à ce point-là, pour moi, si t'es un bon game master, bah tu donnes un minimum d'indices. Et là, c'est vrai qu'on a été un peu livré à nous-mêmes, on savait pas trop, enfin voilà, on pataugeait. Et c'est ça aussi qui te fait sortir de l'immersion, c'est-à-dire que si au bout d'un moment, bah t'avances plus, tu résous plus d'énigmes, tu passes plus dans une autre pièce, bah au bout d'un moment, je pense que tu sors du jeu, quoi, tout simplement.
Ok, parce que vous avez demandé des indices dans ce cas-là ou pas? Parce que normalement c'est le truc qu'on peut faire quand.
Bah disons que pour moi la personne aux caméras, elle doit voir en fait que qu'on qu'on met beaucoup trop de temps en fait par rapport à une durée de jeu normale. Ouais. Qu'on mette 5 heures au lieu de 3 heures, c'est quand même énorme.
Oui, ah oui, alors donc ouais, donc cette salle c'est 3h20 je crois de base. Vous, ça a duré plus de 5 heures. Hein, ouais. C'est ça quand vous avez joué. Nous, ça a duré pas mal aussi hein, ça a duré 4h30 je crois au total. Nous il nous a proposé un break à un moment à la moitié du jeu à peu près. Je sais pas si vous aussi c'était le
nous
cas,
aussi ouais, nous aussi effectivement. Et tu vois ce break, alors c'est vrai, est-ce que tu préfères qu'on te parle d'immersion ou d'énigme, parce que
moi, bah, les deux sont les intéressants deux. D'avoir votre avis là-dessus.
Alors moi sur le plan de l'immersion, je trouve que c'est vraiment un échec Paradox Project. L'histoire, j'y crois pas du tout, même si on n'avait pas fait le premier épisode et forcément qu'on a loupé un peu de la première partie de cette histoire-là. Je trouve les vidéos qui te montrent l'histoire complètement ratée, avec un son de mauvaise qualité, avec un acting auquel on croit pas du tout. Je trouve les décors très moyens, franchement. Et j'ai pas été emballé par aucun effet spécial de cette salle, tu vois. En termes d'immersion pure, franchement, je trouve que c'est pas du tout à la hauteur de ce que propose Athènes. En termes d'énigmes, et là, je pense que t'es bien mieux placé que nous pour en parler, je trouve que ce sont pas des énigmes absurdes, comme tu peux le voir parfois dans les salles athéniennes où vraiment, parfois tu sais que c'est une énigme qui a été jetée là pour ralentir parce que là, il faut que ça dure. Mm. Je trouve que les énigmes sont bien construites, mais ce qui me va pas, c'est que c'est pas comme dans les escapes classiques où tu résous une énigme, t'ouvre un cadenas ou t'ouvre un tiroir et t'as la récompense immédiate, tu vois. T'as ce shot de dopamine que t'attends, en fait, de résolution. Dans Paradox Project, tu résous une première énigme pour en résoudre une deuxième qui va t'amener sur une troisième et parfois une quatrième. Et du coup, la récompense, si tu veux, elle arrive très tardivement pour moi.
Ah ouais, bah je sais pas, moi j'ai l'impression que de résoudre juste une, même si elle t'amène sur une autre, t'as quand même le plaisir de l'avoir résolue elle. Non ?
Mais t'as pas le cadeau à l'arrivée, tu vois. Que t'as dans les
escapes. Un cadeau, c'est quoi que t'as
bah, le cadeau, c'est par ouais, exemple, ça te débloque une porte qui te permet d'accéder à une autre pièce, ça te débloque un objet, ça te débloque,
Ah, bah, parce que ça, il y a un petit peu quand même, non? Il y a des pièces qui se débloquent,
Il y a, mais pour les débloquer, je pense surtout à cette première salle de Paradox Project, il y a des énigmes à tiroir, en fait, qui pour moi.
Paradox Project 2. Ouais. The Bookstore.
Qui font que tu n'as pas cette adrénaline que tu es censé avoir dans l'escape, tu vois.
D'accord. Ok, bah c'est intéressant, ouais. Oui, donc du coup, bah pour reprendre, c'est vrai qu'à un moment il propose de faire une pause. Moi, je trouve que c'est cool en tout cas de faire une pause parce que c'est, enfin ça c'est physiquement c'est prenant. Moi, ça me sort pas trop du jeu. Enfin, je trouve que c'est en tout cas cool de se reposer un peu pour se remettre de ses émotions et puis après on est reparti. Donc après, c'est vrai que ça peut dépendre.
Moi, d'avoir le mec qui rentre dans la salle et qui te dit, est-ce que vous voulez une pause? Je crois plus que je suis dans un escape game, en fait.
Ah, enfin, d'accord. C'est ce qui s'est passé, toi?
Ben, à un moment donné, je crois qu'il te met un indice et qu'il te dit, est-ce que vous voulez une pause? Mais tu vois.
Oui, c'est par écran, on voit pas le game master.
Du coup, là, au contraire, je me rappelle que je suis dans un escape game et que je suis pas vraiment dans l'aventure qu'on est censé me vendre, tu vois. Ça me redit que, ok, je suis dans un escape game, est-ce que je veux sortir? Est-ce que je veux re-rentrer? Et moi, j'aime bien perdre ce sentiment que je suis dans un escape et incarner vraiment les personnages, tu vois.
Ok. Je crois que c'est vraiment le cœur du souci et sur l'approche de la salle. Et c'est vrai que moi, quand je vis une salle, c'est pas forcément pour ça, même si ça peut avoir du sens. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme l'enchaînement des puzzles, l'enchaînement du scénario qui se déroule. Alors c'est vrai que les vidéos, bon, il y a des vidéos régulièrement. Moi, je suis pas forcément hyper fan hein, de ces vidéos, mais j'aime beaucoup l'idée que le scénario se développe au fur et à mesure des pièces et c'est un truc, je sais pas si vous avez joué Lost and Found aux Pays-Bas.
Si c'est, ouais, voilà, aux Pays-Bas, c'est une... chez Kammer.
Ouais. Et cette salle du coup ressemble beaucoup hein, à ce niveau-là où t'as aussi toute une histoire qui se déroule avec des vidéos et moi je trouve qu'il y a un côté hyper classe comme ça de la salle, c'est pas juste de l'exploration mais c'est, il y a un scénario qui se développe au fur et à mesure et les vidéos aident quand même bien à amener cette histoire supplémentaire. Les énigmes en elles-mêmes, c'est rare qu'elles suffisent à ça. Des fois dans certaines salles t'as juste des documents, tu les lis si tu veux pour essayer de comprendre la trame, mais de l'avoir en vidéo, ça permet vraiment de la poser, quoi.
Parce que c'est bien fait dans Lost and Found, parce que les vidéos, elles sont pour moi professionnelles, tu vois, elles sont hyper bien montées avec de la musique, elles sont pas trop longues, t'accroches, quoi.
Et elles sont pas diffusées sur une télé à tube cathodique, enfin, je caricature un peu, mais Moi, c'est un peu c'est un peu l'impression que ça m'a donné dans Paradox. Enfin,
moi, j'ai trouvé plus simple à suivre que Lost and Found. Bon, j'ai beaucoup apprécié Lost and Found, mais c'était assez dur le scénario de suivre. Je trouvais ça plus accessible quand même dans ça dans Paradox, même si des fois, surtout dans le 2, effectivement, des fois l'histoire ça part dans des méandres où c'est un petit peu dur de suivre.
Tu vois, juste pour rebondir rapidement sur ce que t'as dit, moi, enchaîner les énigmes et faire des pauses dans une chasse au trésor, il y a aucun souci. Qu'il y ait des mi-temps, tu vois, qu'il y ait des breaks et tout, parce que c'est pas la même intensité d'immersion, c'est pas ça le but, tu vois. C'est plus la résolution d'énigmes qui compte. Alors que pour moi, un escape game, c'est une aventure avant tout. C'est une aventure immersive où tu vas vivre une histoire, en fait. Et les énigmes sont un prétexte pour faire avancer l'histoire. C'est comme ça que je vois l'escape, c'est une vision très personnelle, mais...
Ben, c'est sûr que chez Paradox, ils ont, c'est pas ce parti pris. Mais ils font des trucs. Moi, enfin, ce que je trouve incroyable dans Paradox Project, c'est aussi les énigmes qui sont pour le coup très originales. Enfin, c'est vraiment des trucs où il y a plein de trucs que j'ai jamais vus ailleurs où je me suis dit waouh, enfin, c'est trop cool, quoi.
Ok. Et
c'est vrai qu'en termes d'énigmes, les autres vont pas aussi loin.
Même dans la qualité vraiment de la conception des énigmes, toi qui es calé sur le sujet, t'as trouvé ça vraiment bien fait, quoi.
Ah oui, non, il y a plein de trucs. Bah en fait, bon, c'est quand même très dur hein, de juger la qualité des énigmes, mais je pense que par exemple le fait d'arriver à la résoudre par soi-même, ça peut être souvent un des critères de dire j'ai bien aimé ou pas, parce que si tu as besoin d'indices, non. Moi, des fois, j'aime bien même quand j'ai pas trouvé, et si ça m'a semblé logique, dire ouais non, ouais. Et beaucoup aimé l'énigme après coup. Mais bon, ça déjà, ça peut être un peu dur. Et même de façon générale aussi, l'appréciation d'une salle en fonction de l'ambiance des gens avec qui on est.
Totalement.
Ça joue aussi beaucoup, hein. Si tout le monde fait la tête à côté, bon, généralement, ça va pas t'emballer, même si t'aurais pu adorer avec d'autres personnes. Donc voilà. Et donc, ouais. Et puis, bon, même quand on est pris dans le jeu, c'est un peu dur de juger de la qualité. C'est pour ça que c'est bien, je trouve, de débriefer à la fin pour bien se rappeler les gros énigmes. Et puis après, c'est voir est-ce que c'est des trucs classiques qu'on a déjà vu 20 fois, ou est-ce que vraiment ils ont été chercher des idées nouvelles. Et chez Paradox, clairement, c'est, alors, il y a quelques trucs classiques, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et même dans leur toute première salle, qui, elle, pour le coup, c'est celle qui a le plus vieilli, déjà, là, il y a des idées aussi qui sont très, très, très fortes. Hein.
En fait, moi, je trouve la qualité des énigmes très bonne, mais leur intégration dans le scénario et l'histoire, parfois catastrophique. Une énigme sur des... Je sais pas si tu vois de laquelle je veux parler. Pour moi, c'est l'énigme que tu peux retrouver dans un livre d'énigmes classique, et je vois pas ce que ça fait là, en fait. Je vois pas pourquoi on me fait résoudre cette énigme à ce moment-là, tu vois.
Franchement, pour ça là, je suis d'accord. En fait, elle c'est une énigme qui est intégrée quand même à l'histoire, parce que c'est une énigme qui se sert vraiment de l'environnement et...
Tu vois, pour moi, il y a intégrer vraiment une énigme dans le sens où c'est logique de la résoudre à ce moment-là pour avancer dans l'histoire, et mettre un peu de thématisation dans l'énigme. Là, on est un exemple qui a rien à voir, mais on est dans un bateau pirate, donc on fait une énigme autour des pirates. Mais pourtant, cette énigme, elle n'a pas de sens d'être là, tu vois. Il y a une différence pour moi.
Oui, je suis d'accord avec ça. Et ça, c'est un truc moi j'ai remarqué, où les genres sont plus ou moins sensibles par rapport à ça. Et c'est rare, en fait, d'avoir des gens qui sont vraiment très sensibles à ça. Parce que c'est vrai que dans l'escape, surtout au début, c'était vraiment juste tu résous les énigmes parce qu'elles sont là, c'est logique. Parce que, enfin, en tout cas, tu le fais, tu te poses pas de questions. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récent de se dire, voilà, c'est mieux si c'est logique que telle énigme soit à cet endroit-là, parce que pourquoi est-ce qu'il y a une énigme dans un manoir ou quoi, qui a mis l'énigme, hein? Bon, et il me semble que dans Paradox, c'est quand même très bien justifié. Ça l'est beaucoup, je me souviens, dans le premier, où vraiment, t'as des explications méthodiques, et où c'est rare d'ailleurs que ça soit à ce point-là expliqué de pourquoi il y a des énigmes. Là, le moment dont tu parles, c'est un peu moins justifié.
Moi, je l'ai vécu comme si on m'avait balancé un sudoku en pleine tête, tu vois.
Ah, okay. Ah non, je peux comprendre. Non, mais moi, pareil, hein, c'est vrai que le ressenti quand j'arrive à cette énigme, c'est bon, il y a ça, on le résout parce qu'il y a ça, mais ouais. Puis c'est vrai que peut-être pas trop l'envie. La salle avait déjà duré depuis un petit moment. Et t'as un truc vraiment très cérébral.
Un truc qui se résume à un papier et qui arrive au bout de 2 heures de jeu, ouais, c'est un peu...
Ouais, non, justement, à ce moment-là, on peut penser que c'est juste le papier, mais c'est plus subtil que ça. En tout cas, par rapport aux énigmes, je pense que... Déjà, le coup de pas hésiter à demander de l'aide, je pense que c'est vraiment le même problème que par rapport au son. C'est-à-dire, quand on est vraiment gêné par un truc, les Game Masters, ils sont là pour qu'on passe une bonne expérience. Et chez Paradox, en fait, vous avez aussi été reçu par Dimitri, je crois, le gérant. Hein, et je pense que lui, c'est quelqu'un qui, bon, voilà, il est passionné d'énigmes, c'est clair. Il aime que les gens trouvent par eux-mêmes, parce que c'est vrai que c'est ça qui fait le plus plaisir. Et moi, en tant que gérant, c'est la même chose, hein, c'est ça que j'essaie de faire. Donc, le fait de donner le moins d'indices possible, c'est ce qui permet que les gens aient le plus de plaisir possible. Bon, après, ça, c'est dur à jauger. Et lui, je pense qu'il va avoir du mal, avec des joueurs qui parlent pas sa langue, de se rendre compte que les joueurs sont en situation de difficulté et... ou alors, alors je sais pas, sauf si vraiment vous mettez, vous essayez quelque part. Et vous
mais pas. Non, mais c'est exactement ça que j'allais dire. C'est-à-dire que on s'assoit. Après, ça fait partie du concept. Tu as le droit d'aller t'asseoir dans la salle de pause. Mais je vais te donner une anecdote d'un gérant d'Escape que je citerai pas, un gérant hollandais qui a tellement détesté la salle que il s'est mis dans l'espace d'accueil une série Netflix sur son portable. Ce qui peut être assez irrespectueux, hein, enfin on en pense qu'on veut, mais tellement et lui disait que il avait l'impression de pas être regardé de toute façon et qu'il adhérait pas au truc et que bah là il s'est mis sa série Netflix. On n'est pas allé jusque là, hein, mais il y a ce ressenti.
Ouais, c'est dur à juger. Bah ça, c'est un, je pense que clairement du coup le game master peut se dire ok, ça c'est cette personne n'aime pas, mais peut-être que les autres ont envie de trouver par eux-mêmes, donc je continue. Alors, moi perso, donc j'ai trouvé très cool qu'il nous laisse plus de temps pour finir évidemment, hein, pour profiter de tout. Mais des fois clairement on galérait et moi j'ai vraiment pas de soucis à. Alors en fait demander un indice, j'ai dit s'il vous plaît avoir un indice, ça c'est un truc je trouve qui sert, enfin qui dessert. Qui est pas du tout immersif, hein, et bon, pour le son on est obligé de le faire malheureusement, mais pour les indices moi ce que je préfère faire c'est dire vraiment là je trouve pas, et dans enfin une salle internationale j'hésite pas à le dire en anglais en me disant bah, peut-être que si je parle anglais là le game master sait que je m'adresse à lui. Alors déjà récapituler ce qu'on a compris de l'énigme, ça sert vachement parce que des fois ils ont du mal à nous aider parce qu'ils savent pas ce qu'on pense, mais déjà parler en anglais et puis des fois dire à haute voix peut-être qu'on a besoin d'un indice, je pense qu'on a besoin d'un indice. C'est le genre de truc qui peut aider à en débloquer. Alors, je pense qu'il faut pas hésiter.
Ouais, c'est vrai. On a tendance peut-être avec Alexis à attendre trop que le Game Master sente le truc, tu vois. Mais il faut pas hésiter. Si vraiment ça te gêne, il faut pas hésiter.
Bah ouais, je pense que c'est évident. Après, ça n'empêche que c'est des salles, je pense, qui sont pas trop faites pour des joueurs comme vous. Genre, même chez Paradox, ils ont conscience hein, que voilà, c'est souvent les joueurs adorent ou détestent. C'est possible de pas aimer, faut pas se forcer à la faire évidemment. Après, je pense que les gens qui écoutent Eurecast, normalement, ils peuvent y aller. c'est vraiment une salle faite pour eux, donc faut pas hésiter quoi. Ok, très bien pour Paradox. Moi, il y a une question aussi que je me pose, vous avez peut-être une réponse. C'est, il me semble que Athènes, c'est vraiment une destination vraiment à faire. C'est-à-dire que si des gens veulent faire un voyage escape, partir une semaine pour aller jouer des escapes, peut-être une dizaine d'escapes, ou même juste un par jour, je pense que c'est vraiment la destination à aller parce que les salles, bon, on l'a vu, elles sont incroyables, mais aussi parce que c'est pas très cher. Hein, d'aller là-bas, franchement, le niveau de la vie est bien moindre et du coup, les salles sont à des prix vraiment raisonnables. Est-ce que vous, qui avez été à pas mal d'endroits dans le monde, pensez qu'il y a mieux ou pas ?
Et tout est au même endroit aussi, ça c'est quand même important de le préciser, bien sûr, c'est-à-dire que t'as pas besoin de faire je ne sais combien de kilomètres pour aller à l'autre salle après. Ça c'est quand même hyper agréable aussi d'avoir un point de chute, un logement qui soit le même en fait pendant toute ta semaine en fait de voyage.
Bah, c'est clair. Moi, dans le précédent voyage, moi j'ai fait Budapest et Sofia, donc les deux, il y avait cet avantage aussi. Donc je trouve ça très cool. Et les Pays-Bas, malheureusement, c'est vraiment l'exemple où ça marche pas. Là, il y a des salles un peu partout, donc il faut prendre une voiture et faire le tour. Donc c'est beaucoup plus fatigant aussi, éprouvant, je trouve, de devoir changer de ville à chaque fois plutôt que d'être tranquille toujours le même hôtel ou Airbnb.
Ouais, pour répondre à ta question, je pense qu'Athènes, en tout cas, en termes de rapport qualité-prix, c'est de loin le meilleur. Et moi, c'est la destination finalement que je préfère parce que il y a un nombre de salles incroyables qui est inégalé. Quand tu vas dans les autres pays, il y a tout le temps des salles qui sont un peu moins bien. À Athènes, on a à chaque fois, on n'est pas déçu, quoi. Et pour moi, il y a trois pôles, en fait, en Europe. Tu as Athènes. Tu as la Belgique et Pays-Bas, et j'inclus la Belgique parce qu'en fait c'est très très près et ça te permet de faire un voyage combiné avec des super salles. Et la troisième c'est l'Espagne, avec surtout Barcelone, mais en fait pareil, hein, si t'as une voiture tu peux vadrouiller dans tout le pays. C'est les trois destinations que je conseillerais. Après il y a Montréal, bon ça fait beaucoup plus loin, mais qui commence à avoir vraiment des salles qui a gagné cette année première et troisième meilleure salle du monde au RPK. Mais en Europe, t'as tellement déjà de quoi faire que, ouais.
Ok. Bah, très bien, effectivement. Moi, la Belgique, j'ai déjà aussi été. C'est vrai qu'il y a des salles incroyables. Moi, l'Espagne, ça fait partie des endroits où j'ai peur que ce soit surtout très immersif, mais pas très énigme. Je sais pas, vous, votre avis là-dessus.
Pour moi, Escaper Barcelona, c'est un peu le meilleur des deux. Hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Val, mais j'ai pas l'impression que les énigmes soient tirées par les cheveux, que ce soit des énigmes cheap. Enfin, c'est.
Non, je pense que.
Puis c'est logique, ça s'intègre bien dans son environnement. Enfin, c'est. C'est l'excellence de l'escape game. Enfin, c'est. Ils sont toujours dans le haut du TRPK, dans les premières places, et c'est mérité parce que c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le monde, quoi.
Ouais, en tout cas, je dirais pas que les énigmes sont négligées en Espagne. Je dirais que leur spécificité, effectivement, c'est un peu l'immersion dans le sens d'un aventurier, tu vois. Il y a beaucoup de trucs, des salles vraiment gigantesques. On va parfois te proposer de faire un petit peu d'acrobranche, de passage un petit peu physique, quoi. Mais les énigmes sont quand même de très grosse qualité, surtout dans les bonnes enseignes. Ouais, donc pour moi, c'est à faire quand même.
Ok, bon, bah, très bien. En fait, moi, j'ai été chez Fring, au nord de Paris, et là-bas, j'ai joué leur salle Batman. Et il me semble que c'est importé de Barcelone.
Effectivement.
Et en fait, on nous a dit c'est un peu le type de salle qu'il y a là-bas. Et c'est vrai que la salle Batman, c'est beaucoup d'action, mais je trouve très peu de réflexion.
Alors la salle Batman de Fring, elle est copiée, mais de ce que j'ai entendu, elle est quand même avec une dimension moins grande que celle de Barcelone, tu vois. Et ça reflète pas quand même l'escape game espagnol dans sa globalité. Hein.
Ok.
Ouais.
Moi, je dirais que l'escape game espagnol, il est quand même assez varié aussi. Hein. Enfin, tu peux faire que de l'horreur, mais tu peux aussi ne pas faire d'horreur. Hein. Tu peux faire plein de salles, comme tu disais, aventures, sur des licences aussi, parce qu'ils ont pas trop de problèmes avec les licences en général. Donc, non, il y a vraiment à boire et à manger.
Attention, hein. On a parlé d'un peu de la violence tout à l'heure. Autant à Athènes, on n'a jamais eu de problème. En Espagne, on a eu des sacrés problèmes dans des salles horreurs qui dépassent pour nous la limite de ce qui est tolérable, en fait. Donc vraiment bien se renseigner avant. Et c'est très très bien ce que tu fais, Johan. Non, fais la même chose. Écrivez aux salles si vous avez un doute avant en précisant que vous voulez pas être frappé et tout ça. Ça peut paraître...
Si c'est le cas, hein, parce qu'après, on a certains auditeurs masochistes et du coup, pas de soucis. Hein,
parce que du coup, ouais, comme je le disais au début de l'épisode, en fait, en Espagne, il y a à la fois des salles d'horreur cinématographiques, mais t'as aussi des salles d'horreur psychologiques. Et c'est le cas de certaines salles qui ont été primées au TRPK assez récemment. Outline, notamment, où vraiment l'acteur te pousse à bout et tout est fait pour que tu sois jamais, que tu te sentes jamais en sécurité et que il y a des apparitions incessantes. Toi qui aimes pas être dérangé dans les énigmes, Johan, bah là, je pense que tu serais vraiment mal parce que, franchement, t'es en train de réfléchir sur un truc et paf, jumpscare, les lumières s'éteignent. Enfin, c'est que ça tout le temps. Et nous, c'est vrai qu'on n'est pas du tout fan, je pense, avec Valentin. On n'aime pas ce style-là, quoi.
D'accord. Bah, Athènes, il y a un peu ça aussi, de temps en temps, hein, d'être dérangé quand on résout son énigme. Ça arrivait plusieurs fois, quand même, faut avouer. Mais bon, après, c'est le jeu. Hein. Ok. Est-ce que, tiens, je suis quand même curieux, est-ce que vous avez joué des salles à Sofia?
Non. Non,
non.
D'accord, ok. Bon, parce qu'en fait, à Sofia, il y a une salle Saw 2 qui, pour moi, c'est le summum de l'horreur.
Tu l'as fait?
Ce que j'ai vécu. Moi, j'ai joué.
Ah, incroyable.
Ouais.
Parce que, pour en avoir parlé à un blogueur qui a fait, pas un français, hein, mais qui a fait plus de 2000 salles, je pense, il me disait que c'était dans les deux pires salles horreur au monde et pourtant, il en a fait un paquet. Hein.
Ok, bah écoute, quelque part ça me rassure parce que moi c'est aussi la pire salle que que j'ai faite. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était trop. Hein. Après, c'est une salle, c'est vraiment difficile parce que c'est peut-être en termes de salle d'horreur, c'est celle où j'ai préféré les énigmes quand même. Et c'est ça qui est paradoxal dans cette salle, elle fait ultra peur, mais les énigmes sont vraiment très très costaud et vraiment très bien. Du coup, et en fait, eux, ils nous avaient dit que c'était, ils sont beaucoup inspirés de ce qu'ils ont vu à Athènes.
Bah.
Et après, nous, on leur a dit, oui, c'est un peu too much ce que vous avez fait. Et eux, ils ont dit, ouais, mais par rapport à ce qu'on a vu à Athènes, franchement, c'est pas grand chose.
Ah, mais c'est pour ça bon, que t'avais cet a priori peut-être avant d'aller à Athènes, ouais.
Ah ouais. Okay. Bah, c'est ça. Eux, entre autres, nous avaient dit, on s'est dit, ah oui, d'accord, si c'est de ce niveau. Et voilà, bah, il faut croire qu'ils sont quand même allés plus loin que l'élève a dépassé le maître à ce niveau-là.
Parce qu'ils ont dû faire les telles décisions 1, je pense.
Peut-être.
Voilà, sans doute 1. Bah oui, celle dont vous parliez, possible. Mais bah ouais, non, en fait, ce qui aussi joue, je pense, c'est le côté sang. Hein, donc dans les salles, moi, que j'ai faites, il n'y avait pas beaucoup de sang, pas beaucoup de... Il n'y a pas le côté trasher, hein, des films d'horreur. Et là, dans Saw, c'est vrai qu'il y a en plus le côté de s'automutiler, qui est vraiment très développé, hein, dans la salle. Et ça, c'est aussi une dimension d'horreur qui est quand même assez supérieure, quoi. Alors, ouais. On est vraiment sur un truc...
Mais en fait, on a tous nos triggers très personnels, hein, de ce qui va déclencher ou pas le dégoût, la peur, etc. Et ça dépend. Il y a des gens qui vont être effrayés du sang, il y en a d'autres, ça va absolument rien leur faire, quoi.
C'est vrai. Et il y a le côté déjà acteur qui peut changer beaucoup. Alors moi, c'est ma copine Delphine qui, elle, normalement, les salles d'horreur, genre, ça lui fait pas peur et tout parce qu'elle sait que c'est fou. Mais dès qu'il y a un acteur, là, ça la terrorise et tout parce que le fait qu'il puisse y avoir quand même des interactions physiques, d'un coup, ça joue beaucoup. Si, oui. Parler du coup un tout petit peu de Chapelle et Catacombes parce que moi, je vous l'ai dit, donc à cause des problèmes de son, déjà, c'était trop fort, hein, pour moi. Et il se trouve que même en termes d'énigmes, moi c'est une salle que ça fait partie de ces salles que j'ai le moins appréciée, parce que ok, l'immersion, ils ont mis les curseurs à fond, mais les énigmes, moi je les ai trouvées vraiment négligées dans cette salle. Je sais pas si vous du coup ça a une incidence parce qu'elle est quand même top 1 chez vous, donc.
Moi j'ai pas été déçu par les énigmes sauf une. Et ça, tous les groupes te le diront. Et même la deuxième fois où on a tenté de la résoudre, on l'a pas trouvé logique. C'est une salle qui est surtout réputée pour avoir beaucoup d'énigmes. Je sais pas si tu vas être d'accord avec ça ou pas, mais parfois dans les escapes d'horreur, on va réduire cette quantité d'énigmes pour privilégier les interactions. Là, il y a quand même beaucoup de choses à faire, je trouve. C'est clairement pas parmi les meilleures salles d'énigmes au monde, mais en termes de scénographie, on n'a pas vu d'égal pour l'instant, je pense.
Oui, voilà, c'est la scénographie, hein, du coup, qui fait mettre en top 1. Non, parce que je pense qu'il y en a d'autres, hein, qui n'apprécient pas trop cette salle parce que à cause des énigmes, hein, ça peut être un vrai sujet. Après, moi, c'est compliqué parce qu'en vrai, c'est dur de noter. Ça dépend pour toi quelle est l'importance. Et moi, je la trouve quand même incroyable pour la scénographie. Il y a pas de souci. Mais dans l'équipe, il y a certains qui n'ont pas aimé du tout à cause des énigmes. Toi, Alexis, ça t'a pas trop choqué dans ce...
Bah non, parce que enfin nous, on a fait pas mal de salles à Athènes où c'était un peu pareil. Comment dire, les énigmes, c'était plus un prétexte pour te ralentir qu'un truc vraiment incroyable que t'allais retenir. Nous, c'est vrai que Chapelle and Catacombs, on l'a vécu comme une expérience en grande partie de théâtre immersif, parce que tu rencontres tellement de créatures, tellement de personnages. T'as un petit peu de roleplay aussi au milieu du jeu, une séquence hyper excitante où t'as l'impression de retomber en enfance. Donc nous, on retient ces moments-là, et au final, c'est vrai que les énigmes, c'est une semaine après, c'est limite si on les a pas oubliés.
Ouais, moi ça m'a aussi d'en oublier après coup. En fait, pour moi, ce qui va jouer sur la qualité d'une énigme, c'est surtout combien de temps on va mettre pour la résoudre. Et en fait, si juste en la regardant, hop, c'est immédiat, en fait, ça a pas trop d'intérêt pour nous parce que on n'a pas dû vraiment se creuser la tête. Et les énigmes cool, c'est celles où vraiment c'est pas immédiat, on est obligé de tester des trucs et où du coup on va avoir plus de
T'aimes bien le côté challenge, toi.
Le côté challenge, en fait, c'est juste le plaisir aussi, hein. Le moment eureka de trouver l'énigme, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et on l'a pas trop si on trouve immédiatement parce qu'on dit, ah oui, voilà, tu fais ça. Et c'est ok, quoi. Alors.
Bah, c'est clair qu'en dehors de Paradox, il n'y a pas grand chose qui soit de ce type-là, je pense, en Grèce.
Moi, en Grèce, il y a quand même certaines salles que j'ai trouvées avec des très bonnes énigmes. Et Exorcista, c'est le cas. Sanatorium aussi. Hein, en Midnight Mud, j'ai trouvé ça cool, les énigmes. Du coup, moi, c'était quand même possible de, d'en avoir, quoi.
C'est très cool, en tout cas, d'entendre ton retour en tant que passionné d'énigmes. Bah, quelqu'un qui a adoré la Grèce, parce que je sais pas si c'est la réputation, tu vois, de la Grèce d'avoir, d'être connu pour ses énigmes. Surtout pour l'horreur et les acteurs, tu vois, à la base, je pense.
Et ouais, dans les savers, c'est aussi une très bonne destination pour les énigmes.
Une destination complète.
C'est ça. Je m'étais dit, on pouvait parler peut-être aussi ensemble des conseils, quand même, qu'on pouvait donner aux gens pour jouer, puisque vous avez aussi peut-être des retours. Moi, j'avais noté juste quelques conseils. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Déjà, il y a la difficulté en Grèce de placer les sessions d'escape, hein, parce que ça commence tous très tard. Et du coup, faut arriver en calé le matin. Et il se trouve que le bon plan, c'est les Paradox Project, qui, eux, acceptent de faire jouer le matin. Donc, quand on fait son programme, il faut essayer déjà de les mettre le matin. Nous, en fait, il acceptait de le faire le matin, parce que d'habitude, il accepte pas. On avait juste un supplément de, je crois, 30 euros par session.
Ah ouais. Qu'il
fasse le matin. Voilà. C'était supplément. Nous, on trouvait que c'était logique, parce que on se dit, s'il se couche hyper tard, pour lui, c'est quand même la galère. Il y a un petit supplément. Mais ça permet au moins de vraiment caler la journée, de faire... Nous, on essayait de faire en gros deux escapes par jour, un le matin et un le soir.
Ouais, et c'est vrai que du coup, Paradox a changé, parce qu'avant, on pouvait jouer 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tu lui donnais n'importe quel créneau, il était capable de te le mettre.
Mais c'est peut-être le cas. Hein. C'est nous, on a juste demandé le matin.
Mais il n'y avait pas de supplément.
Okay, via... Et il n'y avait pas de supplément.
Nous, on avait...
S'il accepte de faire ça à 3 heures du matin...
Bah ouais.
C'est sympa, hein. Peut-être qu'à un moment il s'est dit qu'il va peut-être pas tenir le coup.
Paradox, on aime pas, mais ils sont hyper sympas.
Non, mais nous, pour te dire, nous on a réussi à caler quand même une salle à minuit.
Oui, mais ils ont des créneaux qui commencent à minuit là-bas, non?
Oui. Non, on a.
C'était un créneau qui existait.
On a réussi à caler une salle à 2h du matin, et qui n'existait pas.
Ah oui. Ah voilà, ok, à 2h là, c'est pas mal. Hein.
En fait, en termes d'horaire, ce que je vous conseillerais, c'est de vous décaler, en fait. C'est-à-dire que nous, on se réveille vers midi, 13h, ce qui est pas du tout le cas habituellement. On joue des salles de 17h à 2h du matin. On se couche vers 3-4h et on recommence. Et après, on revient au taf la semaine d'après et on n'y arrive pas.
Et après, t'es explosé.
Ah, mais c'est clairement un bon plan, hein, de se décaler, j'avoue. Voilà. Ah oui, il y a la salle, donc le sanatorium, hein, qu'on a fait. Dans leur mail de réservation, ils conseillaient de prendre des chaussures de rechange.
Oui.
Vous l'aviez eu aussi, vous, ce
Oui, tout à fait.
Oui.
Vous avez réagi comment?
On s'est demandé pourquoi, on l'a pas fait. Mais, après coup, je comprends pourquoi, et il y a effectivement un passage où, en fait, ça dépend ce que tu fais derrière. Si t'as prévu d'aller à l'hôtel derrière, je pense que c'est pas du tout un souci. Si t'as prévu de jouer trois escapes derrière, et que malheureusement tes chaussures, comment dire sans spoiler, mais tes chaussures ne sont, tu vas pouvoir les utiliser, mais ça va être gênant, quoi.
En fait, pour moi, on peut spoiler, il y a pas de souci, parce que je trouve que c'est cool. Et en fait, même eux, je crois qu'ils le disent, hein, dès le début dans le brief. Mais juste un moment, on peut mettre le pied dans l'eau. Bon, bah c'est vrai que si c'est le cas, c'est un peu gênant pour la suite, hein, si t'enchaînes de trucs. Après, normalement, si tu fais attention, ça n'arrive pas.
C'est ça. Mais tu vois, nous on fait hyper gaffe dans les salles horreurs, on court pas, même si on nous dit de courir, on court pas. En fait, on va marcher vite et on va faire gaffe à pas se prendre un escalier ou quoi. Mais là, j'ai joué à Bordeaux des salles horreurs le week-end dernier avec des gens qui avaient aucune expérience et en fait, on s'est fait mal hyper bêtement parce que eux ils couraient dans tous les sens, ils couraient dans les escaliers dans le noir. Donc ça dépend de votre tolérance aussi à pas faire n'importe quoi si vous avez peur.
C'est vrai que dans la panique, on peut du coup plus s'adapter à pas faire gaffe et là où on marche et du coup se faire avoir. C'est clair. Et nous, ce qu'on nous a dit, c'est qu'en fait, on se faisait plus ou moins courser en fonction de si tu cours, tu vas te faire courser.
Voilà.
Mais si tu marches normalement,
voilà,
ils s'adaptent en fait à notre rythme pour que ça soit juste sur le fil, quoi. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux pas courir, je pense. Et en plus, c'est dangereux, hein, si tu cours dans des endroits où t'as de la fumée partout et tu vois pas où tu vas. Ça va, quoi. Donc par rapport à cette salle, moi je trouvais que c'était, il y avait pas la peine, parce que c'est vrai que c'est quand même une logistique, hein, de prendre une paire de chaussures supplémentaires et tout pour la salle. Je pense qu'il vaut mieux essayer de faire gaffe pendant la salle et à ce moment-là, il y a pas de problème, hein. Voilà. Il y a un autre truc aussi, c'est que dans les salles, des fois on se fait pourchasser, hein, par des monstres en tout genre. Enfin, et en fait, je trouve que c'est cool de d'éviter ces monstres parce que c'est le jeu en fait. Mais je pense que c'est bien de pas le faire trop déjà. Bon, déjà pas se mettre en danger évidemment. Mais le truc c'est que bah, souvent il y a des expériences intéressantes liées au fait de se faire capturer. Et donc du coup bah des fois ça peut valoir le coup un petit peu de le faire, et en fait pour moi ce qui suffit c'est des fois d'essayer de prendre un peu de risque, hein. Moi je sais que pour le coup j'ai tendance à être très prudent, et donc du coup je me faisais jamais apprendre, mais je pense que ça aurait été plus marrant d'essayer de prendre un peu plus de risque, quitte à me faire attraper, sachant que de se faire attraper à chaque fois c'est enfin ça peut donner suite à des expériences cool aussi.
C'est vrai, mais ça ce qui est dur c'est que tu le sais pas à l'avance en fait. Tu sais pas si vraiment si tu te fais attraper qu'est-ce que ça fait. Il y a des salles qui t'annoncent que tu es éliminé si tu te fais attraper, ce qui est faux. Hein. Mmh, ça c'est ouais. Juste dit en amont pour que les joueurs jouent le jeu et que ceux qui n'aient absolument pas peur ben prennent quand même la fuite, tu vois. Mmh. Mais ouais, c'est pas bête, c'est pas bête.
Et sinon, moi en fait en termes de conseils pour la ville, juste quand on va à Athènes, c'est vrai que ce qui peut surprendre c'est que l'alphabet est pas le même. Et moi je m'étais dit c'est ça peut être quand même cool d'essayer d'apprendre le grec, enfin l'alphabet grec, qui est peut-être pas si dur parce que généralement on connaît pas mal de lettres, hein, grâce aux mathématiques, parce que on va chercher beaucoup là-bas en maths. Dans les escapes ça sert pas, hein, c'est plutôt pour la ville quand on se balade. Des fois il y a un côté marrant de d'être capable de lire ce qui est marqué.
Il y a un petit côté énigme qui ressort chez toi là à ce moment-là.
Eh oui, c'est ça. Et puis après ça permet de connaître la lettre xi aussi, ouais, en grec, ça. Qui peut servir, hein, des fois on pense que non mais
et de réussir des énigmes
en c'est ça, réussir des énigmes grâce à ça. Donc je sais pas, moi je pense qu'en tout cas ça demande pas trop d'efforts, et du coup ça peut être intéressant de se motiver par exemple dans l'avion d'apprendre ça. Et voilà, nous on a pris beaucoup les transports en commun, les métros. Normalement apparemment les taxis sont pas très chers. Moi j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus avantageux les transports en commun. Non, non, vous avez pas...
Non, on fait que du taxi, parce que si tu divises par 4 ou 5, ça revient vraiment à que dalle, voire parfois même à moins cher que le métro. Ça dépend du trajet, bien sûr.
C'est moins cher qu'un trajet, mais quand tu prends un pass pour 5 jours...
Ah, du ouais. Coup, Oui, c'est vrai, mais après, il y a quand même des escape games qui sont très loin du centre. Et ou en métro, clairement, bah tu vas en avoir pour des heures. Tout dépend peut-être du nombre de salles que t'as prévues dans la journée aussi.
Bah oui, je crois que c'est, il y a surtout, enfin nous c'était Ice Tiki qu'on avait repéré comme étant vraiment très loin, mais le reste à chaque fois c'était quand même proche des métros, du coup.
Et pas de... Don't Take a Breath, c'est très loin et c'est dans un quartier qui est pas très safe. Ah oui, donc même il est recommandé par le gérant de venir en taxi et d'être déposé devant l'enseigne.
Ok, bon bah du coup des fois il y a pas le choix. Voilà, c'était les petits conseils, hein, pour les gens qui vont à Athènes. Hein, on l'a dit, c'est vraiment la destination à laquelle aller. Et voilà, je sais pas si vous avez des choses à ajouter, vous, sur la Athènes en général, les escapes, tout ça.
Non, on l'a dit, hein, ça vaut le coup d'être découvert par n'importe quel joueur qui aime un peu les escape games, si comptez que vous êtes quand même prêt à rentrer dans une salle horreur.
Oui. C'est sûr qu'il faut aimer un minimum l'horreur pour y aller, je pense.
En fait, si t'es complètement allergique, non, ça se passera pas bien. Mais si, comme nous, t'avais extrêmement peur, tu peux être capable de t'habituer et de kiffer ça à la fin, quoi.
Ok, très bien. Bah écoutez, Valentin, Alexis, merci beaucoup d'être venu parler de ces escapes immersifs d'Athènes. On peut vous retrouver sur votre podcast ?
Oui, on peut l'entrer sur notre podcast, donc Immersion, le podcast des loisirs immersifs. Sur notre site lemeilleurescapegame.fr, et vous avez les réseaux Instagram et Facebook qui vont bien avec.
Génial. Allez, merci encore d'être venu.
Merci beaucoup à toi.
À
ouais.
Bientôt.
Salut.
Merci. Salut.
Voilà. Allez, je retrouve Thomas. Thomas, t'es toujours là?
Oui. C'était passionnant. Je suis toujours là.
Ok. Bon, bah cool. Donc ouais. Tu vois, moi, il se trouve que Immersion, j'avais vu leur review. Hein, sur Paradox Project, le fait que eux, ils aiment pas du tout, et j'avoue que ça m'avait fait peur parce que je me disais, puis attends, si c'est 3 heures par salle, ça fait 9 heures de salle, si c'est pas ouf et j'amène 3 amis, on va souffrir, tu vois, si c'est pas sympa. Et mais j'essayais de me rappeler, tu vois, je me disais, mais non, c'est une salle d'énigmes et tout, donc en tant que passionné d'énigmes, normalement ça devrait aller, tu vois. Ouais. Donc ça m'avait vraiment fait très peur, en vrai il y avait aucun souci.
Donc ça c'est bien. Et tu vois en fait la, leur déception eux des salles, c'était lié à plusieurs trucs, mais par exemple des attentes fortes sur, sur l'immersion. Hein, ils veulent vraiment être pris par l'immersion, par la salle, et que en permanence ça leur fasse vivre des choses et d'avoir des pauses où faut vraiment se concentrer sur les énigmes. Eux ça leur coupe le rythme, mais bah pourtant c'est quand même bien pour.
Ouais. Ça dépend, les énigmes, mais c'était bien lié à la narration. Genre, t'avais l'impression de faire avancer l'histoire quand tu disais tes énigmes.
Ben moi, je trouve que oui. Après, c'est un avis. Ben après, ça dépend lesquels. Mais en tout cas, enfin, tu vois, le point fort que je disais, c'est que les énigmes, elles sont, en tout cas, elles sont vraiment justifiées. Tu vois, c'est pas il y a une énigme, mais pourquoi il y a une énigme à cet endroit-là?
Oui.
Ça a aucun sens. Non, vraiment, ça pour le coup. Tout se tient dans le scénario, donc
ouais, c'est sympa, ça.
Donc ça c'est bien. Et puis ouais, le fait de dérouler une histoire qui à travers les énigmes se développe. Bon, des fois c'est des trucs un petit peu perchés avec des sortes de pas de spoil, mais il y a des clins d'œil entre les différentes salles, tu vois, par exemple.
Ah, oui.
Et qui font partie de la beauté du truc, mais bon, c'est un peu subtil, mais
ouais.
Mais bon, c'est pas des effets wow visuels ou des trucs gros, non, tu passes quand même beaucoup de temps avec du matos à essayer de résoudre les énigmes, quoi.
Le rythme, c'est hyper intéressant, je trouve, justement, en tant que Game Master, je vois bien que, les équipes habituées, elles arrivent à persévérer et à prendre du plaisir à dire, j'ai pas d'idées, je vais chercher de nouvelles idées. Là où des équipes pas forcément débutantes, hein, parce qu'on voit là, ils sont pas débutants, hein, c'est juste qu'ils sont plus sensibilité immersion, elles vont préférer que y ait de la nouveauté, qu'il y ait de la stimulation régulière, et pour ça c'est le game master, hein, qui va être pour moi le garant d'avoir un rythme qui s'adapte à l'énergie que dégage un groupe, en fait, hein. Moi il y a des groupes, des fois ils sont en retard, mais je vois toujours des nouvelles idées, des bonnes idées qui arrivent, et je les laisse jouer, parce qu'en fait pour moi c'est bon, ils sont dans le jeu, ils sont pris, ils ont pas besoin de moi pour aller les bouger, quoi. Sauf si par vraiment des fausses pistes qui sont trop loin et qui peuvent être à la limite incohérentes, toi tu te dis bon, faut quand même qu'on les arrête un moment, mais du coup, et je pense que ça peut dépendre des équipes et de l'énergie qu'on a à continuer devant le mur, quoi, tu vois. Et je pense qu'il y a quand même peu d'équipes qui continuent à avoir de l'énergie quand elles voient aucune solution devant leurs yeux.
Bah ouais, non, mais là, enfin, en tout cas, avec eux, c'est ce qui s'était passé, et le Game Master qui met trop longtemps, des fois, à aider, ou qui, des fois, a du mal, forcément, parce qu'avec la langue, c'est plus dur. Bon, tout ça fait que c'était compliqué de maintenir ce rythme. Donc, ouais, non, il y a ça. Et puis, le fait aussi d'avoir besoin de récompenses, c'est dont il parlait. Ça c'est quelque chose où on a des avis très différents, parce que nous, les énigmes à tiroir où il y a plein de choses à faire et où on est toujours surpris en termes d'énigmes, nous on trouve ça hyper stimulant, mais eux ils ont besoin de que ça débloque plus de choses. Quand ils veulent que ça débloque une salle à chaque fois qu'ils résolvent une énigme, sauf qu'après on se retrouve avec une seule énigme par salle et ça fait un peu léger, quoi.
Ouais, ça fait un rythme un peu pas surprenant, quoi. C'est un rythme trop régulier. Mais oui, moi j'aime bien qu'il y a plusieurs énigmes dans la même salle qui vont un peu brouiller les pistes. Qu'est-ce qui va avec quoi? Si ça c'est ton énigme, ça c'est mon énigme. D'accord. S'il y a plusieurs énigmes, est-ce qu'elles vont avoir un lien après? Super.
Tout qui se débloque quand à mesure que t'avances, quoi.
Quand d'un coup tu fais ah oui, mais ça c'est là, oui. Ça c'est ci, voilà. Ah j'adore
le
ce
truc. Le moment où il y a un truc que t'as depuis le début que t'as pas réussi à utiliser, qu'enfin
exactement. que tu te balades de salle en salle en disant ça va être utile, et d'un coup tu vois la trace dans le mur qui a la forme de l'objet que t'as dans la main.
C'est ça. Et parce que c'est aussi marrant quand justement tu n'y arrives pas alors que tu l'as depuis le début et que tu sais, tu mets longtemps et tu finis par comprendre, tu fais putain, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, quoi.
C'est énorme
depuis le début, là.
Mais c'est vrai que on a parlé de Molly's Game, c'est un bon exemple. Molly's Game, très bonne salle, hein, qui a été première et deuxième du TRPK à plusieurs années de suite. Elle a un petit côté comme ça où t'as une énigme, qui peut être un peu grosse, hein, Et du coup, après, t'as récompense, j'avance, une énigme, je récompense, j'avance, une énigme, je récompense, j'avance. Et du coup, oui, il y a du rythme, mais le rythme est peut-être trop régulier, tu vois. Des fois, ça peut donner un côté monotone d'avoir un rythme trop continu.
Et puis, le challenge est moins fort parce que t'as moins de choses en même temps dans la pièce, donc tu vois très rapidement où faut aller sur l'énigme.
Bah oui, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est agréable aussi, hein. Mais du coup, t'es surpris par d'autres choses. Moi, j'avoue que je serais team Johan sur ce coup-là.
Ok, bon bah c'est cool. Du coup, c'est bien, ça tombe bien, on est ensemble sur le sur le podcast.
On s'est pas trouvé pour la ville, mais pour les voilà. Énigmes, c'est bon.
C'est ça. Ok, bon bah allez, je pense qu'on a fait le tour là pour Athènes. C'est un gros sujet. Moi, c'est prévu que j'y retourne, mais peut-être d'ici 2-3 ans. Ce qu'ils m'ont dit que chez Paradox, c'est d'ici 2-3 ans qu'ils allaient sortir leur quatrième salle. Donc autant attendre quand même qu'ils en aient une nouvelle, quoi.
Ouais, ça me fait penser qu'il faut que j'aille à Bruxelles. Si je peux y aller en train, ça va. Et nous, j'ai un grand coup de cœur pour l'enseigne Escape Rush. Et j'avais appris qu'il y avait une quatrième salle qui était sortie, donc déjà ça faisait mal. Et là, du coup, elle a eu la quatrième place du Golden Scape, donc ça donne encore plus envie.
C'est fou ça. Non mais je pense que le gap qu'ils ont mis devait être très fort parce qu'il y a il y en a aucune autre qui sont dans les top 25. Donc
ouais.
Pour être quatrième.
J'ai eu des groupes qui ont dit ouais c'était bien mais pas top alors que moi j'ai adoré leur salle. Donc qu'ils aient aimé la dernière à fond, je me dis ok ils ont dû envoyer du lourd sur peut-être justement les énigmes. Ils étaient un peu en dessous sur les énigmes je trouvais. Peut-être qu'ils ont rattrapé ce retard. Je sais pas, j'essaye de regarder aucun avis pour regarder la surprise.
Non, mais c'est sûr que le décor, ils ont fait des trucs encore plus fous, hein. Parce que les gens, ils ont besoin de décors incroyables pour mettre dans le top.
Je sais pas si c'est possible, parce que leur décor était déjà tellement énorme.
Pour moi, c'est peut-être encore améliorable. Enfin, moi, j'ai pas mal de salles en tête où je me dis, les décors, ça va vraiment plus loin que ce que proposait Escape Rush. Il y a moyen, ne serait-ce que tout un bâtiment t'explores, tu vois, en termes de, et là ça a l'air d'être un peu ça en fait, donc je pense que ça crée une dimension supplémentaire.
Ok.
Du coup, pour arriver à la fin, on arrive peut-être à la fameuse énigme de fin d'épisode. Alors, est-ce que des gens ont résolu ton énigme, Thomas?
Vu que l'épisode est publié depuis 2 ou 3 heures.
Oui, regarde tes messages là, non? T'as pas
et
eu
qu'il est 1h du matin.
Ça aurait des gens très motivés quand même pour le faire et pour écouter dès la sortie, ils se rendent disponibles.
Mais c'est
ça,
clair.
Et peut-être qu'on a des fidèles auditeurs qui font ça. Hein. C'est-à-dire mais que non, dès qu'ils voient la notif, hop, déjà qu'on la notif. Et
c'est ça, la notif. Mais non, nos fidèles auditeurs, ils sont là genre « Ah non, il n'y a que un par mois, je vais me le garder pour un moment cocooning, chocolat chaud. » Ils vont pas te gâcher ça et faire ça le premier soir.
Peut-être.
Ouais, on sait pas. Mais du coup, non, j'ai pas eu de bonnes réponses encore. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer les bonnes réponses, mais n'écoutez pas la suite parce que je vais dire la réponse.
Ah purée, bah oui.
Mais on va laisser quand même quelques jours avant de diffuser celui-ci, normalement d'ici à la diffusion j'aurai une tonne de messages pour me donner la bonne réponse, je suis sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle était facile, difficile, moyenne?
Moi je pense que c'est comme les Dingbats en fait, hein. C'est, j'ai l'impression de ne pas avoir été très bon sur ce coup-là, peut-être la fatigue. Mais après coup, ça m'a semblé ultra évident.
Ok.
Et je me suis dit, ah ouais, purée.
Donc t'es sûr et certain, t'as la bonne réponse?
Oui, je suis sûr et certain, ouais.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis obligé de rechanter là ou...
Non, je pense, non. je pense que c'est
cool. Donc, c'était une chanson de rap que j'avais fait pour les lignes de fin de l'épisode de février. Je vais quand même dire un petit peu, je peux peut-être faire la deuxième moitié. Non, je vais tout dire. Allez. Donc ça faisait quelque chose comme ça, donc je le re-rappe pas, désolé, hein, j'ai pas le mojo. Une nouvelle énigme de fin de Zeppel, tu sais que tu ne peux pas test. Alors pendant mon flow, tu feras mieux de te taire. Mais ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, je ne suis pas une peste. Tu as peur de ma complexité, de mon originalité, alors tes moyens tu perds. Une énigme en rap, c'est original, c'est de mauvais augure. Tu vas devoir être conquérant, un empereur, tel Auguste. Les forces te gagnent, mais ne lève pas encore ton verre pour faire un toast. Tu dois encore te surpasser, devenir un dieu, tel Thor. Tu vas découvrir le secret d'un bon épisode de Recast. C'est simplement un épisode qui... Enfin, je sais plus, t'as une idée, toi?
Attends, mais mince, parce que là, je suis en train de réfléchir par rapport à la solution que j'avais trouvée, et je me dis, si ça se trouve, c'était pas ça.
tu m'as vendu, je suis sûr, c'était trop facile, j'aurais dû y penser.
Oui, oui. Bah, en fait, moi, j'ai envie de dire, mais, ah, purée, non, c'est pas l'idée que j'avais au début, quoi. Mais là, ça me donne envie de dire que c'est un épisode qui récare.
Ah bah, il manque des mots, peut-être.
C'est pas très français. Bah oui, c'est ça. Ah, qui dure 1h15.
Oui, ah, c'est ça.
Ah, purée.
Mais oui, j'avais dit qu'il y avait pas qu'une seule réponse, hein. On pouvait avoir trouvé plusieurs idées, mais bon,
ah, purée, mais là, t'es en train de... En gros, de dire qu'on a fait aucun bon épisode.
Non.
surtout pas aujourd'hui, hein.
Bah, c'est les actualités qui ont duré 1h15. Et oui, voilà, du coup, si on reprend les rimes, ça faisait test pour la première et terre pour la deuxième. On voit qu'en gros, j'ai enlevé le st en re. Ça se confirme pour la suite, hein, parce que la rime de deuxième strophe, c'est peste et père. Donc, j'ai enlevé le st pour faire re. Ensuite, c'est de mauvais augure, tel Auguste, encore une fois, mais dans l'autre sens. Et puis ton verre pour faire un toast et qui est remplacé par Thor, on sait pas, je l'ai loupé une fois, je crois que j'ai dit Thor, mais il faut dire Thor pour que ça marche. Et voilà, du coup tu vas découvrir le secret d'un bon épisode de Recast. C'est simplement un épisode qui dure 1h15.
Ouais, mais tu sais qu'au début en fait c'est en relisant que j'ai compris, mais je croyais que c'était juste sur la rime finale que est se transformait en r et que du coup voilà, t'avais le st qui se transformait en r, mais en fait non, c'est carrément tout le mot. Et moi je m'étais dit, il suffit juste le recast de transformer le st en r et du coup finir un truc par car et que c'était ok, tu vois.
Ah oui.
Mais non, il y a besoin de tout le recast parce que depuis le début on reprend à chaque fois tout le mot.
Exactement. Est-ce que toi t'avais juste essayer de faire une rime en quart, du coup.
Ouais, c'est ça.
Et t'allais dire quoi, alors?
Bah, c'est simplement un épisode qui a de bon lascar. qui fait le grand écart.
Excellent.
Qui est logique, car on dit souvent quart. Voilà.
Voilà. Donc, tu t'es amélioré en direct, quoi. Excellent.
Voilà, c'est ça. J'avais pas le choix, hein, parce que j'avais dit, je suis sûr, alors, du coup.
Ouais, c'est clair. J'aurais bien voulu que tu me sortes le lascar, et moi, j'aurais dit, mais quoi?
Oui, oui. Lascar, bah non.
Là, j'ai dit, mais c'est une super idée, Johan. Je pense qu'on peut encore faire mieux.
Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce qu'Annabelle a trouvé, par contre?
Elle n'a pas encore écouté l'épisode.
Ah oui, tu l'avais pas fait bêta tester, alors?
Non, j'ai pas fait bêta tester.
Ah, parce qu'Annabelle, normalement, c'est quand même la bêta testeuse.
De mes énigmes à moi.
Bah, je crois. Hein.
Ouais, c'est ça. Non? Mais oui, mais souvent, en fait, on est à l'arrache. Et je prépare mon épisode le pendant la journée en disant je te ferai tester, et puis après on arrive le soir et je dis, c'est pas grave, ça passera. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, elle me dit, bah non, ça passe pas, fais pas ça. Je dis, bah j'ai rien d'autre. mais bon, elle était pas trop mal. Bon, il y a le Thor et Toast qui est vraiment très très tiré par les cheveux. En plus, il y en a une autre, c'est Augure et Auguste qui sont dans un autre sens, mais je pense
ça marche,
que
ça quand même, non? Ouais, ouais. Enfin, pourquoi ça a besoin d'être dans le même sens? Parce qu'aucun des mots n'est dans le même sens.
Bah, ça faisait test, terre, peste.
Ah oui,
terre, toast,
sens, pardon.
Tort,
je pensais sens, cast, signification, voilà. Mais sens, l'ordre, ouais.
Ouais. Mais je me suis dit que ça passait.
Ouais. Ouais, je sais pas si Annabelle aurait accepté ça, elle aurait peut-être...
Non, elle a attendu le temps, mais elle est plus douée que moi avec les mots.
Oui. Bah ouais, peut-être. Ouais. Moi, en vrai, j'avais même pas fait gaffe, hein, mais...
bon. J'avais pas fait gaffe à l'énigme. Oui. J'ai vu car,
non, mais... Non, mais dès que tu vois que c'est... En gros, c'est R, se transforme en ST, et après, bon, ouais. Voilà, c'est vrai que ça s'applique partout, donc...
Je comprends.
C'est bon.
Très bien. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, je remarque que ma diction à 1h du matin est meilleure que ma diction à 2h du matin. Je te dis pas, le prochain épisode qu'on a enregistré à minuit, là, je vais être au taquet.
D'accord. Non, mais parce que c'est vrai que c'est la dernière fois qu'on était à 2h et tu trouvais que la diction était meilleure ou moins bonne?
Moins bonne.
Mais oui, mais parce que tu chantais. Et là, cette fois-ci, tu le fais en parlant. Donc, t'as pas compris que c'était ça qui...
Mais même, un peu fatigué quand même, même quand je l'ai fait en parlant derrière, j'étais un peu moins bon, je trouve.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, le temps qu'on se synchronise, qu'on se prépare et qu'on enregistre, eh ben, on finit à pas d'heure, quand même. Donc, ça aide pas à avoir une diction parfaite. Voilà. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, en vrai, j'ai pas une diction parfaite la journée non plus. Mais là, j'ai une excuse. Alors, ça va.
Bah, c'est ça. Je sais pas si Annabelle te le fait remarquer.
Non, ça va, elle est gentille.
Non.
Elle fait pas remarquer les choses que je ne peux pas changer. Ça, c'est cool.
Voilà. Mais dans un couple, c'est tellement, c'est une belle leçon, hein. J'avoue que même moi, je ne suis pas du tout ce conseil, mais il faudrait.
Ben ouais.
Mais des fois, tu sais pas, tu te dis, mais peut-être, et en fait, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, il faudrait quand même se dire que non, c'est...
Non. Ma diction, elle veut bien que je l'améliore, mais une fois que l'épisode est enregistré, elle va pas me dire t'as mal dit les mots, tu vois.
Ok, tu parles par rapport à ça, ok.
Oui. Mais il y a des fois où je suis perdu dans mes pensées et mes phrases ne veulent rien dire. Donc elle est bien obligée de me dire j'ai pas compris un seul mot de ta phrase, Thomas. Il faut que tu fasses un effort.
Ça marche. Bon, allez, j'ai une petite énigme de fin.
Fin. Ouf, je l'ai eu.
Oh là là, je parle doucement parce que je suis en train de réfléchir et
tu t'es dit finalement.
Non, bah si, je la fais quand même, non? Très bien. Ouais. En fait, j'hésitais, mais parce que j'ai peur que le niveau soit un petit peu bas, tu vois, que c'est commencé à baisser.
Mais c'est pas grave, on est là pour un, est détendu. Deux, j'ai envie de dire, je pense que les auditeurs seront très contents de trouver une réponse.
Ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, je l'ai pas fait par tester ni par Annabelle ni par Delphine. Donc déjà.
Voilà. Tu rejoins le club des gens à l'arrache. Très bien.
Bah ouais, c'est ça. Non, et par contre, s'il y a des auditeurs qui ont des idées d'énigmes à l'oral, hésitez pas à nous les proposer. Hein, en message privé, et comme ça, on les dira, on fera des sélections, mais on dira voilà.
Attention, on les crédite aussi, hein. On dit pas
on les crédite, ah, bah, bien sûr, ouais. Ah, ouais, voilà, nous on n'est pas comme ça, mais voilà, n'hésitez pas, si vous voulez une petite mise en avant, à proposer une énigme cool, on la dira. Alors, mon énigme d'aujourd'hui, j'ai tellement honte, en fait, c'est juste un, mais bon, parce que d'habitude je fais pas ça, tu vois, mais là, voilà, je me suis dit, bon, ok, monsieur et madame, voilà.
J'adore, je suis hypé à fond là.
Parce que là, c'est du carambar, tu vois, c'est pour ça que... Enfin bon, c'est...
Allez, je suis là, je suis avec toi.
Plus, mais quand même. Bon, du coup, monsieur et madame, eh bien, 4 lettres ont un enfant, comment s'appelle-t-il? Voilà, eh bien, 4 lettres.
Eh bien, 4 lettres.
Eh bien...
Eh bien, 4 lettres.
Eh bien, 4 lettres. Voilà. Bon, je sais pas si tu veux réfléchir.
Et bah du coup, je donne mes réflexions directes ou pas là? C'est jamais ce qu'on réagit.
Allez, si tu veux tenter de lancer un prénom qui sera bipé, tu peux y aller.
Allez, attends. Non, j'ai pas de prénom, j'avais juste des réflexions jusqu'à maintenant.
Ça, c'est plus long à biper, là.
Ouais.
Ça fait une minute de bip.
Du coup, j'ai une idée. J'essaie de trouver un prénom qui peut matcher. Non, je l'ai pas. Mais je suis sûr que je vais trouver. J'ai le pattern en tête de ce que je cherche.
Ok.
Et je vais essayer... Enfin, pattern, on va dire modèle. On en français, si. Du coup, c'est le modèle de son que j'aimerais bien avoir. Et après, on pourra, ça devrait marcher. J'y crois.
Ok. Bah, écoute, c'est fort, hein, si t'arrives à l'avoir, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc où on a déjà parlé, hein, les carambars où,
Ouais.
Bah, ça peut être un peu vaste, hein, le champ de,
oui,
recherche.
Oui, il y a trop de possibilités. Coup, ouais. Mais pour une ligne de fin où t'as un mois, c'est, oui. C'est une blague carambar au long cours.
C'est ça. C'est ça, oui, comme les chasses au trésor au long cours.
Voilà. Eh ben, écoute, j'ai hâte de me poser pour y réfléchir. Je t'enverrai un message direct.
Ça marche. Bon, bah, je crois que ça y est. L'épisode, il est en train de se finir. Alors, il est pas fini, hein. Parce que la fin, c'est le générique de fin.
Non, c'est l'outro.
C'est l'outro, ouais. T'as raison. Bah, non, on dit pas, pourtant, on dit pas générique de fin, là.
Non, c'est un outro.
Bah, non, mais oui, enfin, on dit les deux, hein.
Ah oui, puisque moi,
bah,
c'est
le générique de fin.
On parle français ici, monsieur. Donc, générique de fin.
Non, mais, non, mais les deux sont ok. Mais, du coup, on peut peut-être juste teaser le prochain sujet?
Ouais, alors ça voudrait dire qu'on a déjà envisagé un sujet, préparé tout ça.
Mm-hmm.
Ah oui.
Mais moi,
d'accord.
Je pense que oui, hein, parce que pour moi, le sujet qu'on traitera, c'est un sujet qu'on avait déjà annoncé dans un précédent
d'accord.
épisode.
Mais c'est toi qui avais annoncé mon sujet, parce que c'est moi la prochaine fois, je crois.
Alors, c'est nous ensemble, on s'était dit, il
fallait
ah ouais, en parler.
Ah ouais, ça. D'accord. Et, mais donc, pourquoi la prochaine fois? Ah, parce que c'est un sujet qui dont on doit parler obligatoirement au début mai.
C'est ça. Parce que c'est dans l'actualité. Bah, le 2 mai, en fait.
Ah, le 2 mai, carrément.
Ouais, le 2 mai, c'est là que ça se passe.
Et tu crois qu'ils ont trouvé ce que c'était là, ou pas?
Bah, peut-être, hein. Peut-être qu'ils ont la ref, hein. Les gens qui nous suivent, normalement,
Ils doivent avoir la ref.
Ils savent, hein.
Est-ce que ils ou elles peuvent avoir un indice quand même, ou on leur laisse juste la date?
Popcorn.
Popcorn. Allez. Eh bah, ben, si vous avez trouvé le sujet du prochain épisode, moi pas. Donc n'hésitez pas à me donner des indices en message. Voilà, ne le dévoilez pas à tout le monde quand même, mais si vous pouvez me donner des indices pour m'aider à trouver, ce serait hyper chouette.
C'est ça. Bah peut-être oui, de façon énigmatique, hein, comme on avait proposé, vous mettez un commentaire qui évoque du coup la réponse et sans dire ce que c'est clairement, et du coup on verra si vous avez trouvé.
Excellent. Et assez tôt pour que j'ai le temps de le préparer, par contre. Parce que sinon...
oui, c'est vrai. Pas au dernier moment, ouais. Bon, très bien. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Hein. Je crois qu'on est sur un épisode de quasiment 3 heures.
Ah non.
Plus court. Bah non, mais en fait, on a fait une Paradox Project.
C'est ce que j'allais dire. C'est finalement moins qu'un Escape, si un Escape, c'est 3h20, quoi.
Voilà, c'est moins qu'un espèce de... Bah, moins, tout dépend. Il y en a des forts qui finissent en 2h30, le Paradox Project.
Ah ouais.
Mais, c'est pas le cas. Et oui, non, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que, enfin, 3h, c'est pas 3h, tu sais, on rallonge pour être sûr que les gens finissent, hein.
Ouais.
C'est vraiment, 3h, bien dense, quoi.
Donc, okay.
Ouais, dur de finir en 2h30, je crois, mais c'est jouable. Donc, on est à peu près sur ce temps-là.
Ok, très bien.
Voilà, bon, bah du coup, oui, merci. On a hâte de lire vos commentaires.
Et merci à Immersion pour leur intervention.
C'est ça, merci à eux. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao.
Ciao.
Eurocast, le podcast des énigmes, tombe à deux épaules. Johan, d'un trésor à Paris. On a fait des puzzles et allez hop, c'est fini. Vous avez bien réfléchi, les casse-têtes vous ont épanoui. Vous en voulez encore plus, rendez-vous au prochain opus.